Alors, nous excusons, moi j'excuse en tout cas Monsieur Mathieuquin qui a été appelé sur Paris aujourd'hui, qui ne pourra pas être présent à 18h, mais Anthony Cabs représente le conseil général, Merci. Et nous excusons Rosemary Falk qui a eu un empêchement personnel. Donc, voilà. Mais je laisse l'accueil pour l'ensemble des trois structures à Jacques Florentin.
Merci Marie.
Oui, pour ce charge pour moi, nous allons présenter vice-président du Conseil général, Rosemary, président des maires de Meurthe-et-Moselle, mais je le fais avec beaucoup de plaisir parce que ce cycle de réunions, rencontres, ont commencé il y a maintenant 2 ans. On en est à la 4e, je crois, séance. Nous nous retrouvons, je commence à reconnaître des têtes nouvelles, mais il y a des têtes anciennes qui sont là depuis le début. Et je pense que ça démontre bien l'enjeu du sujet sur lequel on veut plancher. Alors, moi, je suis élu local également, hein, je suis maire d'une petite commune rurale de 130 habitants, en Frappeaux, et président de la communauté de communes rurales aussi autour de ce village, donc c'est la communauté de communes de Célébrochère, c'est un village pour 8000 habitants. Je pense qu'on a, si tout le monde voit dans cette dynamique du développement local, on se doit, je crois, de prendre en considération le sujet de la discrimination. Je crois que c'est très important. Et avec le Conseil général, qui avait déjà un peu de recul sur le sujet de l'association des maires, on s'est trouvé en parfaite harmonie intellectuelle, je dirais, pour construire ces échanges. Et donc, je pense également que là aussi, les élus locaux ont un rôle énorme à jouer pour sensibiliser ces problématiques. Moi, j'ai, au cours des premières rencontres, découvert que la discrimination ne se limitait pas des fois à des simples sujets qui peuvent se traduire par des résultats d'autres qu'on les a vus il y a une quinzaine de jours, mais aussi sur bien des thèmes, il y en a 18, hein. J'avais entendu la leçon de votre part, il y en a 18 des thèmes sur lesquels on peut avoir et être reconnu coupable de discrimination. Je crois que c'est important qu'au niveau des élus locaux, dans le domaine de l'emploi, dans le domaine de la relation interne, on soit toujours très sensible à ce sujet. Donc je regrette toujours un peu le petit nombre des élus présents, mais c'est jamais des heures faciles à laquelle nous vous invitons ici. Je sais par retour que les présents transmettent bien les messages, et c'est tant mieux. Donc moi je ne veux pas être plus long, j'interviendrai peut-être au coup par ici. Je vois certainement des petites questions à poser à M. Landani, parce que moi ce n'est pas spécialement mon cheval de bataille, donc je suis toujours en découverte et en apprentissage. Donc merci à vous d'être venus. Je crois que vous avez, Anne-Marie et M. Landani, préparé cette réunion. Elle laissera beaucoup de temps au débat avec vous et au dialogue. Je crois que c'est tout l'intérêt de ce type de réunion. Donc laissez-vous aller, si tout vous sert Randani aura cette courte présentation. Voilà, je ne serai pas plus long. À vous, Randani, bon courage. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation. Parce que vous êtes venu de Paris, puis vous allez repartir en voiture. Parce qu'à l'heure où on a prévu que ça a fini, il faut encore que ça s'améliore un peu, la SNCF. Même si c'est rapide, maintenant, après 8 heures, c'est dur d'avoir un train. Donc vous avez fait vraiment l'effort de venir en voiture. Et la chance, c'est qu'il est toujours bon à l'oreille, donc c'est parfait, on va faire clair.
Voilà, à vous. Merci. Merci beaucoup pour votre accueil, monsieur. Merci, cher Marie-Vio, pour tout le travail en amont, parce qu'il est important et il est déterminant pour organiser une réunion. Je suis très très heureux d'être ici, parce que j'ai eu l'occasion très souvent de venir à Nancy dans ma vie. Déjà longue, et ça me rajeunit de prendre la voiture, voyez, parce que ça fait presque 10 ans que je suis un abonné indéfectible des trains, mais là, je me suis dit, tiens, c'est une bonne occasion de tester si je suis encore en forme. Bon, plus sérieusement, on a voulu, et c'est bien sûr le cahier des charges qui m'a été transmis et auquel j'essaierai de me conformer et de respecter, de faire une rencontre qui soit un échange sur un sujet qui est vraiment complexe, et qui intéresse tout un chacun, dès lors, ce chacun, qu'il vit dans un pays démocratique qui a des règles de droit et dans une économie de marché qui est basée sur la concurrence et non pas sur la rente ou le monopole abusif et comme en féodalité ou dans certains pays où, qui ne vivent que sur de la rente ou de la prédation. Donc en fait, si on a la chance de vivre dans une démocratie, ce sujet nous intéresse tout au long de notre vie et dans quelque activité que nous soyons, ou dans quelque domaine que nous exercions nos talents professionnels ou tout simplement nos compétences, ou plus encore, tout simplement, dans notre relation à d'autres. Donc c'est un sujet que je vous propose pour que cet échange soit un peu vivant. Je vais le nourrir peut-être parfois d'anecdotes, si vous le permettez. Elles seront toujours convenables. Mais je voudrais que nous ayons au moins une heure d'échange. Donc je m'organise pour ne pas être trop bavard. Je vais prendre une bonne trentaine de minutes pour poser un cadre. Et ensuite, sur les 15 dernières minutes qui nous séparent de 19h, organiser quelques éléments à partir de ce que vous m'avez envoyé, gentiment pour certains, qui ont pris le temps de répondre à un questionnaire. C'est toujours agréable de répondre au questionnaire, je les remercie toutes et tous. Donc je vous propose une petite demi-heure pour camper le sujet, un petit quart d'heure pour parler autour de ce qui est ressorti, et ensuite on échange à partir de vos préoccupations. Les règles du jeu sont simples. Nous sommes ici dans un espace de confidentialité absolue. Nous sommes ici dans un espace de confiance, donc la parole doit être totalement libre, avec deux règles. La première, c'est qu'on ne cite jamais les personnes physiques ou morales, nommément, sauf lorsqu'il y a autorité de la chose jugée, publicité légale, BNP a été condamné pour, là vous avez toute la liste sûrement, mes collègues, ex-collègues et amis de la Halle, donc lorsqu'il y a un jugement, il est rendu public et donc on peut dire que Renault a été condamné, L'Oréal a été condamné, une mairie a été condamnée, un préfet a été condamné pour discrimination. Donc là, c'est évidemment les deux règles. C'est un, ne pas citer de personne physique ou morale. Je ne le ferai bien évidemment pas. Je vous demanderai lors des débats de ne pas le faire. Et la deuxième, c'est lorsqu'on évoque un cas ou une situation, on le fait de manière anonyme. On dira par exemple, dans un cas comme celui-ci, une entreprise de plastique, une mairie de 5000 habitants ou de 100 habitants, quelque part en France, j'ai eu une association, j'ai eu à prendre cette décision, et là, ça nous permettra de réfléchir sur des cas réels. Donc la deuxième partie, l'heure qui suivra, je voudrais qu'on réfléchisse ensemble sur des cas réels pour distinguer, si j'ose dire, le grain de livret, la discrimination à proprement parler, des autres sujets voisins, qui parfois sont tellement voisins qu'on a l'impression qu'ils sont jumeaux, mais non, ce n'est pas la même chose. Donc vraiment, c'est ce que j'essaierai de faire, vous raconter une histoire la première temps, c'est pour camper le décor et poser le cadre, un petit quart d'heure sur les retours que vous avez, et on aura toute une heure pour discuter, sachant que nous, notre métier, formation, conseil, vous savez, notre métier c'est de parler, je vais parler jusqu'à demain, hein. Le but n'est pas là. Le but vraiment, c'est que je m'astreindrai à cette rigueur. Si ces règles du jeu sont acceptées, je continue. Donc elles sont acceptées. Alors, je vais vous dire quelques phrases qui vont vous choquer, elles vont s'éclairer dans un instant. Donc la première phrase un petit peu choquante, c'est que pour être discriminé dans une société démocratique qui a des règles de droit, en féodalité, c'est un autre débat, dans un pays totalitaire, c'est un autre débat, mais dans une démocratie, l'Espagne, la France, la Suède, la Norvège, le Danemark, l'Argentine aujourd'hui, pour être discriminé, il faut le mériter.
Il faut quoi ?
Le mériter. Alors là, c'est très choquant ce que je viens de dire. Vous verrez tout à l'heure, quand je donnerai les définitions précises, que pour être insulté, malheureusement, on est insulté sans le mériter, souvent, hein. Pour être stigmatisé, on est stigmatisé sans nécessairement le mériter. Par contre, la discrimination, c'est tellement précis que les personnes discriminées remplissent des conditions particulières, dans des situations particulières. Autrement dit, pour qu'il y ait discrimination, il faut que des conditions précises soient remplies. Faute de quoi, on est dans autre chose. Par exemple, on est dans du sexisme, propos sexistes. Vous savez qu'en France, la tolérance à l'endroit des propos sexistes est absolument... Oh, c'est l'océan Atlantique, hein. C'est pas ma petite Méditerranée. Hein. C'est énorme les propos sexistes. De moins en moins. De moins. Ça n'existe plus. De moins en moins. Parce qu'il y a eu quelques événements, parce qu'il y a eu quelques changements, parce qu'on commence à craindre la loi. Donc des propos racistes, des propos sexistes, des propos qui stigmatisent une catégorie ou une autre, ça oui. Mais à ce moment-là, Est-ce qu'on est dans la discrimination? C'est à vérifier. Donc la première chose que je voudrais vous faire passer, c'est que ce sujet, nous l'avons tous découvert, un peu par hasard. Alors comment l'avons-nous découvert? Tout simplement, en France, la discrimination est prohibée dans les grands textes de droit. La Constitution, c'est le 48 déjà, c'est le 58 évidemment, dans le préambule, mais il ne peut faire l'objet de discrimination en raison de ses origines. On le trouve dans le code pénal, la loi Pleven, le grand résistant Pleven, dans la loi Pleven de 1972, qui qualifie la discrimination de délit dans son article 225.1 du code pénal, et suivant. Donc on est bien, depuis très longtemps, sur le fait que la discrimination s'est interdite en France. Par les grands textes, la Constitution, enfin la Constitution ne fait peur à personne. Si vous dites à quelqu'un, monsieur, ce que vous venez de faire est anticonstitutionnel, il va vous regarder avec des yeux ronds. Si vous lui dites ce que vous venez de faire est un délit, là, il va peut-être avoir une petite crainte. Parce que le droit au niveau constitutionnel n'est pas dissuasif. Parce qu'il n'a pas la force de frappe de la sanction. Alors que le délit, oui, le pénal. Donc déjà, nous avons posé dans les textes la discrimination comme quelque chose d'interdit. Cependant, en même temps, nous avons des textes sur le racisme, sur le sexisme, sur l'homophobie. Et pendant longtemps, on croyait qu'en France, nous n'avions pas de problème de discrimination parce que les sujets racisme, sexisme, homophobie, etc., rejet de l'autre, étaient largement confondus avec la discrimination. Et cela s'explique. Cela s'explique très bien parce que nous sommes dans une tradition en France, qui est une tradition qui consiste à poser des textes de loi, n'est-ce pas, et ensuite se dire le problème est réglé. Quand une loi apparaît, le problème commence. Eh oui. Tant qu'on ne l'a pas la loi, on peut tout faire. Je n'ose pas dire le Far West, c'est la loi naturelle. Chacun fait ce qu'il veut, en fonction du rapport de force. Mais lorsqu'une loi est là, et qu'elle a son décret d'application, ces décrets d'application, ou impactent d'autres textes de loi, par exemple, on la retrouve à partir d'un cadre général, on la retrouve dans le code du travail, par exemple, ou dans le code de la fonction publique. Eh bien, c'est lorsqu'il y a des lois que les problèmes commencent. Et nous avons pendant longtemps ignoré que les questions de discrimination ne relevaient pas des pensées ou des systèmes idéologiques des uns ou des autres. Elles relevaient des actes. Deuxième grande phrase que je voudrais vous dire, après la première très provocatrice, c'est que la discrimination, c'est une affaire d'actes, des actes que l'on commet. Donc ça engage toujours une personne qui décide. Une personne qui n'a aucun pouvoir de décision, sur rien, ne peut pas discriminer. Par contre, une personne qui a un pouvoir de dire oui ou de dire non, d'accepter ou de refuser à quelqu'un quelque chose, peut, dans des circonstances précises, discriminer. En clair, seuls peuvent discriminer les gens qui ont un petit pouvoir. Je vais vous donner un exemple personnel. Lorsque j'étais jeune étudiant, j'ai fait 36 000 petits métiers. À Paris, nul n'est parfait. Et parmi ces métiers, veilleur de nuit dans un hôtel. Métier extraordinairement intéressant pour un ethnologue. Parce qu'on étudie les mœurs des gens. Et si un veilleur de nuit dans un hôtel, réceptionniste, homme ou femme, lorsqu'il a encore 3 chambres libres, arrive une personne dont l'apparence physique ne lui plaît pas et lui dit l'hôtel est complet. Qu'a-t-il fait là? Mais une discrimination. Pourtant, il a un tout petit pouvoir. C'est pas un pouvoir énorme. Eh bien, il aura discriminé dans l'acte qu'il aura commis s'il y a vérification et s'il y a un système efficace qui permet à son employeur, parce que son employeur est exemplaire et formé, et qu'il a des outils de contrôle. Bien sûr, je rêve. Mais ce système-là existe par exemple dans certains hôtels en Angleterre. Et le salarié qui commet ça se retrouve licencié. Je ferme la parenthèse, il est vrai que eux, l'équivalent de l'ARD a été créé par la loi de 1975. Donc ça fait un peu de... Même s'ils sont plus lents que nous, pas notre énergie cérébrale. Mais enfin, quand même. Donc, je reprends, je ferme la parenthèse, humoristique, je reprends. Un petit pouvoir, quel qu'il soit, qui permet à une personne de dire oui ou de dire non à quelqu'un qui demande quelque chose. Quoi? Un droit, l'accès à un droit, l'accès à une prestation de service, l'accès à un bien, acheter ou vendre un logement, acheter ou vendre une voiture, que sais-je encore, un bien, rentrer dans un restaurant et demander à être servi, on n'est pas servi, bref, etc. Donc, toute personne qui veut accéder à quelque chose, un droit, un bien, une prestation, un service, peut se retrouver un jour confronté à quelqu'un qui, alors qu'elle remplit toutes les conditions, lui refuse cet accès. Ce jour-là, encore une fois dans certaines circonstances précises, ce jour-là, on pourra commencer à dire « Attention, là, il y a un risque manifeste de discrimination. » Mais j'en conclue pas qu'il y a discrimination. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours la présomption d'innocence. Non ? Il faudrait quand même la rappeler de temps en temps. Sinon, on rentre dans le petit jeu qui consiste à dire comment ? Il est noir, donc il a été discriminé.
Il est bleu aussi.
Il est blanc ? Oui, mais je prends à rebrousse-poil le politiquement correct. Vous voyez ? Elle est femme, donc elle a été harcelée. À ce moment-là, c'est le déclaratif des gens. Je voudrais que vous reteniez une chose, c'est que la discrimination, c'est d'abord une affaire de démocratie, c'est le cadre. S'il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de discrimination. Les femmes en Arabie Saoudite ne sont pas discriminées. La loi organise dans la Constitution leur infériorité juridique. Bah, c'est comme Jacques le Croquant. Jacques le Croquant n'était pas discriminé, il y avait trois États organisés par la loi. L'inégalité était organisée par la loi. Donc sous l'Ancien Régime, il n'y avait pas de discrimination. Il y avait des inégalités organisées par la loi. À partir du moment où on est dans un cadre démocratique, il est clair que toute personne qui veut accéder, dès lors qu'elle remplit les conditions, peut malheureusement être discriminée. Donc déjà, ça nous enlève beaucoup de choses de l'esprit du genre les gens discriminés sont les mêmes, etc., etc. Une femme centralienne ou polytechnicienne peut être discriminée dans sa carrière. Et un monsieur modeste au RSA, qui a été dispensé pour des raisons objectives et juridiquement valables de recherche d'emploi, comme il ne recherche pas d'emploi, ne peut pas être discriminé dans l'emploi. C'est clair ? Pourtant, il est dans une situation beaucoup plus difficile. Il vaut mieux que je préfère être discriminé en tant que polytechnicienne plutôt que... Voilà. Donc là, il faut être... Donc en fait, ce qui est important à retenir, c'est que d'abord, il faut le cadre démocratique et des lois et des règles. Et numéro 2, il faut remplir les conditions. Or, beaucoup de gens ont confondu complètement cette question de remplir les conditions, on ne l'évoque que très rarement. D'où, quand on remplit les conditions et qu'on est écarté, là, on est face à quelque chose de très grave. Pourquoi ? Parce que le droit, c'est bien, mais il y a quand même des êtres humains. Lorsque quelqu'un est écarté au motif qu'il est ce qu'il est, que peut-il faire ? Quelqu'un, par exemple, à l'apparence physique, je vous ai remis le petit livre sur le colloque qu'on a fait, sur l'apparence physique, si quelqu'un, on lui dit, on ne veut pas de vous parce que vous êtes comme ça, que peut-il faire ? Ou bien parce que vous avez telle couleur, ou bien parce que vous avez tel handicap, ou bien parce que vous avez tel âge. Donc lorsqu'une personne remplit les conditions et se voit refuser fermer une porte, c'est une violence psychologique, symbolique. C'est une forme de violence qu'on lui fait. Et c'est pour ça que ces questions sont souvent tendues. Je n'ai jamais vu des gens me parler de discrimination en étant très détendu. Donc je viens d'être discriminé ce matin, c'était très chouette. J'aimerais bien en avoir encore une dans la journée. Non, quand il y a des discriminations, les gens sont tendus. Ils n'en parlent pas avec du recul, avec de la distance, parce que ça blesse leur ego, leur narcissisme, leur être, si j'ose dire. Leur être. Vraiment, ça les remet profondément en cause. Et c'est pour ça que ce n'est pas qu'une question de politique, ce n'est pas qu'une question de droit, ce n'est pas qu'une question... C'est une question humaine et de psychologie. Oui, madame. Donc, vous voyez, j'en profite parce que je devais me lever. J'en profite pour vous dire que j'ai prévu, je ne sonnerai pas, et j'ai évité l'outil, vous savez, c'est le PowerPoint qui est devenu l'élément central pour distraire les gens, vous savez, aujourd'hui, l'outil PowerPoint souvent est utilisé pour qu'on regarde le PowerPoint. Alors, oublions les voix. J'ai prévu deux images, deux petits topos. Quand on est dans une démocratie, on a deux principes qui constituent la Constitution et sur lesquels repose l'édifice juridique. La liberté s'organise, l'égalité également. Plus on accorde l'égalité, plus on restreint les libertés. C'est comme une balance. Le droit de circuler librement sur les territoires de la République est plein et entier. Dès lors qu'on est adulte, majeur, de capacité, etc. Les juristes mettent les nuances. Par contre, l'Ancien Régime, on n'a pas le droit de circuler librement. Seul le souverain avait le droit de circuler sur ses terres. Donc, la liberté de circuler. Et si on n'a pas de quoi payer le TGV ou de quoi prendre le transport, on ne pourra pas. Donc, la liberté, oui, mais il faut de l'égalité pour permettre de l'exercer. Donc, c'est en permanence, c'est ça l'histoire de la démocratie. C'est comment on organise l'équilibre entre ces deux principes. Et ces deux principes nourrissent le droit. Le droit se nourrit de ces principes. Quand est-ce que les femmes françaises ont eu le droit de travailler sans consentement de leur mari ? Oh, n'exagérez pas. N'exagérez pas le grade. 1965. De travailler sans consentement.
Mais l'article n'avait pas été supprimé il n'y a pas si longtemps que ça. 60, j'avais dit.
1965,
le code civil avait été modifié. Oui. Le droit de travailler sans consentement du mari pour une femme mariée, c'est 1965. D'accord ? Donc, Lorsqu'on pose les principes, on a le cadre. Retenez ce schéma, il vous sera très utile pour réfléchir plus tard. Là, on a le cadre. Ce cadre a été instauré à partir de 1792, la première république, tout doucement, tout doucement. Mais ce cadre, il est stabilisé à partir de la Deuxième Guerre mondiale, à partir de 1945. On a une nouvelle époque où nous avons ce cadre. À l'intérieur de ce cadre, on fabrique du droit. Or, pour poser le cadre, ne suffit pas. C'est un rapport de force. Les femmes constitutionnellement sont les égales des hommes. Ça leur fait une belle jambe si, au niveau des codes, elles n'ont pas les mêmes droits. Autrement dit, il faut que, du cadre constitutionnel, on prenne tous les codes, codes de la famille, codes, et tous ces codes, on les épluche, on les nettoie, on les expurge des scories inégalitaires, pour parler de langage des juristes, d'accord, et on les rend égalitaires. Ce travail s'est fait. Souvent sous la pression de l'Europe, dans le cadre de directives qu'on a transposées. Grâce à l'Europe, on a eu un accélérateur des particules. Cet accélérateur a commencé en 1997 avec le traité d'Amsterdam, qui nous a amené, notamment sur la question des discriminations, à transformer le paysage juridique. En clair, aujourd'hui en France, tous les codes, pratiquement, sont égalitaires. On ne peut pas trouver un code où il y a une inégalité homme-femme. Code du commerce, code de la famille, code de la santé, code, les codes des Dalloz, en rouge, en veux-tu, en voilà, les codes, ça remplit les bibliothèques, hein. Eh bien, aujourd'hui, nous avons et le cadre et la photo. Avant, les femmes n'avaient que le cadre, elles n'avaient pas la photo. Aujourd'hui, on a donc le cadre constitutionnel d'égalité, des principes. C'est ce que la Tunisie est en train de faire avec sa constituante. Ça va ? Eh oui, elle pose le cadre. Elle est en train d'essayer de poser le cadre.
Ils ont du mal, quand
même. Bien entendu. Vous savez, 1789-1905, ça s'est stabilisé en 1905 et on a eu une rechute. Après 45, ça arrive. Donc... voilà une histoire longue pour stabiliser les passions. Mais quand on a le cas, c'est très important. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, un allié, un pays fabuleux, que personne ne critique, n'a pas le cadre. C'est extrêmement grave. L'Arabie Saoudite, la question de la femme, elle n'a pas le cadre. Et là, les aménagements sont venus pour que les femmes soient, ou les homosexuels, ou plein de choses. Donc, le pays qui n'a pas le cadre, c'est même pas la peine de discuter de discrimination. Quand on a le cadre, il faut un combat politique. Et là, on fait des lois, c'est vrai, mais quand les lois sont faites, il faut les inscrire dans les codes. Tant que les lois ne sont pas rentrées dans les codes, ça ne marche pas. Il faut que les codes soient égalitaires. Et aujourd'hui, on a des codes qui marchent bien. Alors que reste-t-il à faire ? Bah, notre génération, enfin nous, les contemporains, n'a pas grand-chose à faire, c'est pas passionnant ce qu'on a à faire. C'est tout simplement de transcrire ce qu'ont prévu les codes dans nos différents métiers. Le forgeron dans son métier, l'enseignant dans son métier, l'élu dans son métier, le président ou directeur d'association, le consultant, que sais-je encore, le boulanger, le charcutier, enfin, etc. Le patron de Renault, etc. Donc, ce qui reste à faire, et c'est énorme, c'est que toutes les procédures professionnelles, tous les actes où on décide, on est un référentiel précis pour savoir pourquoi on décide. Quels sont les critères d'attribution? Quels sont les critères de rejet? Et ce travail-là, il est modeste. Il est humble, c'est un travail d'artisan. Ce n'est pas le travail flamboyant de faire l'égalité, vous savez, la main sur la poitrine, en train de... Et après, on descend, on dit à sa femme, viens me serrer les chaussures, père. Ce n'est pas des discours. Ben, les discours à la tribune, vous savez, j'ai vu souvent de beaux messieurs pérorer savamment sur l'égalité homme-femme, et une fois, s'adressant à des exécutants de sexe féminin ou à leur propre compagne, être dans des actes et des propos, c'était sidéral, abyssal, l'écart. C'était pas le grand écart, c'était l'intersidéral. Donc en fait, lorsqu'on a péroré, c'est génial, mais les anciens ont déjà fait le boulot. Le boulot de faire les lois, de faire les textes, il est fait. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Pas grand-chose. C'est simplement comment nous, on va fabriquer, là on fait de la décision, là on prend des décisions, comment on va fabriquer un référentiel qui permette à chacun de décider sur des critères précis. Et ça, c'est un travail qui peut être énorme pour une grande entreprise, pour un grand conseil général, pour une grande structure, une grande organisation, et qui peut être deux temps, trois mouvements, pour une association où il y a quatre personnes, ou pour une PME, un artisan boulanger, qui a cinq personnes. Il peut faire ça en deux temps, trois mouvements. Et pourra le contrôler tous les jours, parce qu'il voit tous les jours ses collaborateurs. Et il le fera avec ses clients en mettant en place des règles précises pour servir les clients. Par contre, plus vous avez de complexité, plus ce travail est difficile. Je le minore par pédagogie, je ne voudrais pas être démagogue. Il est difficile à faire. Il est difficile d'abord techniquement, Et ensuite, il est très difficile humainement. Pourquoi ? Ben, parce qu'il nous oblige à nous départir d'une parcelle de pouvoir. Ben oui, on va renoncer à du pouvoir. Du pouvoir réel et du pouvoir symbolique. Le pouvoir de dire non et de dire oui. C'est jouissif, hein ? On sera obligé de dire oui ou dire non à des gens qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais sur la base de critères. Donc, il est humainement difficile de faire de l'égalité. Ça va ? D'où les définitions. Et je suis pas trop mauvais dans le champ, un petit peu de retard, bien sûr, mais tous les Méditerranéens ne le croyaient jamais quand ils veulent gérer le temps. C'est pas la peine. Alors, on a quatre notions. Les quatre notions qui balisent le terrain, elles sont très connues. Discrimination, c'est le sujet. Ça, c'est le train qui déraille. Le train sur les rails, c'est l'égalité de traitement. C'est ça le cœur du sujet dans une république ou dans une démocratie ou dans un pays normal. Ça peut être une monarchie, l'Angleterre, démocratique, je préfère parler de démocratie. Hein. Dans toute démocratie pacifiée, apaisée, tranquille, le cœur du sujet, c'est l'égalité de traitement. La discrimination, c'est illégal. C'est un acte illégal qui se définit de quatre manières, j'y reviendrai. Acte illégal. Alors que l'égalité de traitement, à ne pas confondre avec le célèbre film E.T., ben, l'égalité de traitement, c'est le cœur de sujet. Par exemple, l'égalité de traitement au guichet. On arrive, conseil général, mairie, tout ce que vous voulez, CAF, n'importe quel guichet. Si on arrive pour changer une carte d'identité, on vient, le CERFA, les photos, parfois le TAM, pas toujours, ça dépend si on perd un renouvellement, etc. Et on remplit les trucs et on s'en va. Égalité parfaite, à condition d'être de nationalité française. Mais c'est inégal pour les sans-papiers. J'ai un grand débat là-dessus. Quand le débat a fini, la mousse de la bière, ils tombent. Après, je dis, ils ne sont pas dans le périmètre de l'égalité de traitement. Juridiquement, ils ne sont pas dans le périmètre. C'est un autre débat. Cet autre débat, c'est de faire des lois qui leur accordent des droits. Ben, ça, c'est pas à mon rayon. Moi, je suis à charcuterie, vous êtes en fromage. Faut choisir. Alors, quoi que, on peut les mariner. Non. D'accord. Est-ce que c'est clair ? L'égalité de traitement, c'est comment on donne aux gens ce à quoi ils ont droit, ou ce qu'ils méritent. Alors l'égalité de traitement, c'est deux. Soit c'est le guichet c'est le plein droit. Mais le guichet c'est le plus facile. C'est là où on a le moins de risque d'erreur de faire de la discrimination. Il y a l'autre égalité de traitement. C'est sur le marché, pas sur le guichet, sur le marché. Par exemple, le marché du travail. Le marché du travail est concurrentiel. Donc l'égalité de traitement passe par la mise en concurrence. On va mettre en concurrence 5 personnes, les plus compétentes, sur CV, ce qu'on voit. Et quand on les a mis en concurrence entre elles, on en choisit un. Là, c'est plus difficile. Et là, le risque de discrimination est multiplié. Parce qu'il n'y a pas le CERFA. Eh oui. Donc, au guichet, on peut tendre vers zéro discrimination. 100% d'égalité de traitement. Par contre, sur un marché, ça sera toujours difficile de faire de l'égalité de traitement juste et parfaite. Elle sera toujours un peu imparfaite. Mais déjà, si on fait, on a comme objectif, par exemple, je vous donne l'exemple de l'instituteur, qui parle sans doute à beaucoup de gens. L'instituteur, lorsqu'il corrigeait les copies et qu'il avait son fils dans la classe pour la dictée, il n'y a pas de souci. Si son fils avait des fautes, il a fait des fautes. Donc il peut avoir 0 comme il peut avoir 10. Imaginez que son fils soit vraiment nul. Donc il a 0. Mais quand il corrige une rédaction, alors là, les anciens instituteurs l'ont donné généralement à corriger à un autre instituteur. Je veux dire, là, je serai subjectif. C'était des gens des années de ma génération, les années 60. Ils n'avaient pas fait le marketing américain, les lois sur l'article 13 du traité d'Amsterdam, la directive européenne, je ne sais pas. Simplement, ils essayaient d'être justes. Donc là où il y avait appréciation subjective et risque de conflit d'intérêts, mais ils s'organisaient pour éviter. Autrement dit, la difficulté n'est pas quand on a des guichets déjà organisés. La difficulté, elle est lorsqu'on a à faire une appréciation discrétionnaire. Une appréciation un peu subjective. Et la décision sera prise en fonction de cette appréciation. Et là, on a besoin d'un outillage. C'est pour ça que je vous disais que l'outillage était difficile. Discrimination, le train qui déraille, c'est illégal. Égalité de traitement, c'est le cœur de la République. Pour parler de manière empathique, c'est le cœur de la démocratie. C'est ça qui fait le pacte de confiance. Et ensuite, on ne peut pas faire que l'égalité de traitement. Si on fait que l'égalité de traitement, il y a des gens qui restent sur le bas du côté, sur le côté du chemin, sur le bas côté. Le bas côté. Si on ne fait que l'égalité de traitement, ceux les plus forts s'en sortiront. D'accord ? Ceux qui ne peuvent pas rentrer par la voie de l'égalité de traitement. La législation prévoit qu'ils aient ce qu'on appelle l'égalité des chances. En droit, ça s'appelle l'action positive. Donc toute différence de traitement n'est pas discriminatoire. Il suffit qu'elle soit justifiée. Par exemple, le RSA. ce n'est pas discriminatoire pour les gens qui ne le touchent pas. Je ne remplisse pas les conditions pour le toucher. Les gens qui payent 5 fois l'ISF. Je parle par exemple, Madame Bettencourt ne peut pas prétendre de les récents. Pour une raison évidente, elle ne remplit pas les conditions. Or, elle peut dire, c'est scandaleux, on aide des gens. Il y a des systèmes de compensation. L'action positive est en général un dispositif ou une mesure de compensation. On compense quoi ? Ben, de compensation des inégalités. Pour rentrer dans le périmètre de l'égalité des chances, il faut vraiment être dans une situation d'inégalité vécue. Donc, toute différence de traitement, le législateur passe beaucoup de temps à faire de l'égalité. Et heureusement, c'est un acte de civilisation. L'égalité des chances, c'est de la civilisation, c'est qu'on ne laisse pas les gens sur le bord du chemin. Ça peut être social, ça peut être la politique agricole commune, les aménagements de charges, les contrats dérogatoires aux contrats de travail, la politique pour les seniors, la loi de 2005 sur le handicap, etc., etc. Toutes ces mesures, c'est des mesures dérogatoires du droit commun. Est-ce qu'elles sont légitimes, de mon point de vue, et du point de vue de l'Union européenne ? Et de la démocratie française, et de la démocratie, etc., anglaise et autres, c'est légitime. Maintenant, il y a des gens qui estiment, en opinion, par rapport à leurs opinions, et les opinions sont respectables, que c'est illégitime qu'il faut la supprimer. Là, c'est de la politique. Parce que c'est clair. Toute différence de traitement n'est pas une discrimination, à condition qu'elle soit dans un cadre juridique précis. Du coup, monsieur, on est pareil, je paye pareil. On ne m'a pas traité de la même manière. Pourquoi ? Parce que je suis arabe, appellation non contrôlée en France. Ben, les arabes, ils habitent en Arabie Saoudite, en général, ils sont pas ennemis. Ils sont plutôt actionnaires, ils sont rachètes, ils des rafales aussi. Donc, en clair, l'égalité des chances, c'est un cadre précis. C'est des gens qui sont déjà dans une situation qui est inférieure à la moyenne. Comme ils sont dans une situation inférieure à la moyenne, bah, le législateur, au nom de la cohésion sociale, met en place des mesures qui peuvent être une délibération d'un conseil général qui décide de donner davantage aux collégiens pour tel truc, pour tel... C'est des décisions souveraines. Elles sont légitimes. Par contre, politiquement, une autre majorité arrive, elle les supprime. Ok. C'est pas un problème, on est là. Mais on ne peut pas se battre là et là. Là, on est délinquant. Là, on remet en cause le cœur de la machine. C'est pas possible. Ça va, est-ce que c'est clair ? Et une fois qu'on a ça, on arrive à la fameuse, vous savez, la Rolls-Royce aujourd'hui du débat, c'est la diversité, sinon vous n'êtes pas moderne. Et on arrive à la diversité qui est une résultante d'une politique d'égalité. Sans politique d'égalité, on n'a rien. Et avec une politique d'égalité des chances, on obtient de la diversité. Et quand on obtient cette diversité, ben c'est des gens différents. Par contre, il y a deux diversités. La diversité qui résulte de l'égalité de traitement, c'est du mérite, c'est de la compétence. La diversité qui résulte de l'égalité des chances, c'est parfois du mérite. Parfois une compensation, c'est-à-dire un pied à l'étrier pour passer à autre chose. Voilà le cadre. Les quatre définitions de la discrimination, et j'arrête sur cette première partie, je vais vous dire ce qui ressort de mes travaux. Bien entendu, on aura tout le temps pendant une heure de débattre. Hein. Mais ce que je voulais, c'est que vous ayez ce canevas, que je vais maintenant mettre un peu plus propre quand même. Ce canevas en quatre parties que j'ai sur la machine, c'est la machine, c'est plus amusant, il y a des couleurs, des trucs, il y a des joujoux. Ce canevas en quatre parties, ici, je préviens les discriminations. Ici, je garantis l'égalité de traitement. Je la garantis. Ici, je fais ce qu'il faut en matière d'égalité des chances, même si idéologiquement, je ne suis pas d'accord. Si je suis dans le cadre d'une entreprise où j'exécute, ou d'une association, mon patron, mon président, ou d'un conseil général, je suis agent, j'exécute. Après, je sors dans mon bistrot le pénalty, et je refais le monde. D'accord ? Et puis après, ici, on a la diversité. Ce qu'il faut apprendre à faire, c'est dire, on a une mesure, attention au risque discriminatoire. Toute mesure, toute décision, il faut d'abord la passer au crible. Est-ce qu'il y a un risque discriminatoire ? D'accord ? Si par exemple on décide de mettre en place une question pour le recrutement, une question nouvelle, on ajoute, parce qu'on recrute des gens. La première chose qu'on vérifie, c'est si cette question est légale. Et donc on vérifie qu'elle n'est pas discriminatoire. C'est clair ce que je raconte là, c'est concret. On ajoute une question pour recruter des bénévoles. On vérifie que la question est légale. Donc on a évité le risque discriminatoire. Numéro 2, on vérifie que cette question est posée à tous les candidats dans les mêmes termes. Égalité de traitement. Et après, il y a certains à qui on ne la pose pas. Pour une raison qu'on a cadrée. C'est que ces gens-là, on doit en prendre 3% parce qu'on a décidé dans une zone franche, dans une zone urbaine, dans un milieu rural, peu importe. Donc ceux-là seront dispensés parce que c'est trop dur pour eux. Ok, on a aménagé. Et puis avec ça, bon, comment on fait cohabiter des gens pour une dérive de jeu ? Chaque fois qu'on... Aujourd'hui, cette grille vous permet de mieux vous situer. D'accord ? Quand on a des mesures à prendre, on essaie de classer ces choses. On se dit, là, je fais de la prévention, là, je garantis l'égalité de traitement, là, je mets en place une mesure d'égalité des chances. Et la discrimination, il y en a quatre définitions. Discrimination directe, la première c'est directe, la deuxième c'est indirecte, la troisième c'est l'injonction, j'écris comme un cochon, injonction, et la dernière c'est le harcèlement discriminatoire. Rien à voir avec ce qui vient de se passer, c'est toujours d'actualité. Et je me rassure. Alors, les quatre définitions. C'est parfois ce qui ressortait des questionnaires, c'est que justement, la discrimination et l'égalité des chances, et parfois l'égalité de traitement, n'étaient pas parfaitement distinguées. C'est ce que j'ai ressenti à la lecture de certains retours. Les quatre définitions de la discrimination. La première, c'est la discrimination directe, c'est lorsque dans une situation comparable, lorsque des gens, des personnes, remplissent des conditions comparables. Lorsque dans une situation comparable, on réserve un traitement défavorable. On va donc traiter d'une manière défavorable une personne ou quelques personnes pour un ou plusieurs des 18 motifs que vous connaissez par cœur, chers collègues. Alors, le sexe, l'âge, je les énumérais, mais vous avez souvent eu ces documents les uns les autres là-dessus, le petit document de la HADE, vous les reprenez les 18. L'âge, le sexe, l'origine, l'orientation sexuelle, l'activité syndicale, l'ethnie, la race, ou réelle ou supposée, ethnie, race et nationalité, l'apparence physique, les caractéristiques génétiques, l'état de santé, le handicap, les opinions politiques et dans le droit public, les opinions politiques et philosophiques, ça c'est dans le droit public, mais dans le droit privé c'est seulement opinion politique, etc. Bref. Là, je l'ai déjà dit, je crois, le sexe, c'est évidemment une femme. Donc, quand on a pris toute la palette, les 18 critères, autrement dit, la discrimination directe, c'est lorsqu'une personne qui est dans une de ces situations, ou plusieurs, on peut être femme, âge et noir, hein, et j'ai aussi oublié les convictions religieuses, hein, eh bien, les mœurs. Lorsqu'une personne est dans une de ces situations, qu'elle remplit toutes les conditions pour obtenir un bien, un service ou une prestation, et qu'on l'écarte au seul motif de cette de ce critère. À ce moment-là, c'est une discrimination. Mais ne vous focalisez jamais sur le critère. Quand vous raisonnez sur une discrimination directe, ce n'est pas le critère qui compte. C'est un, la situation est-elle comparable? Cette personne, elle est comparable avec qui? C'est un plombier, je recrutais des plombiers, bon d'accord. Vous avez une fiche de poste? Oui. Elle est apparue à Pôle emploi? Oui. Je regarde la fiche de poste, je vois que c'est un plombier hautement qualifié, mobile, parlant l'anglais. Donc déjà, ce plombier ne peut pas postuler. Et c'est pour de la rénovation au milieu habité. Haut de gamme, Côte d'Azur. Donc déjà, je suis sur un plombier très spécifique, avec ses compétences. Ils étaient 5 à avoir postulé qui remplissaient les conditions. Et on a jeté à la poubelle 2 CV, un au motif que c'était une femme, et l'autre au motif qu'il était noir, que ça se voyait sur la photo qu'il a envoyée. Là, c'est une discrimination directe, à raison du sexe, et à raison de l'origine réelle, ethnique réelle ou supposée, ou raciale. Ça va ? Donc là, le critère, on s'en moque. On raisonne d'abord sur la situation. Est-ce que les gens sont dans une situation comparable ? Si oui, numéro 2, pourquoi n'ont-ils pas été traités de la même manière? Et là, s'il y a rupture d'égalité, qu'est-ce qui la justifie? Ah ben oui, mais l'un ne voulait pas venir, il voulait rester à Nancy, c'est trop beau Nancy, il ne voulait pas venir à Cannes. Ah bon, ben alors, c'est pas une discrimination. Ça va? Vous voyez le raisonnement? Le raisonnement, c'est d'abord de vérifier que les gens sont dans une situation comparable. Et ensuite, pourquoi? Oui, il est un peu fou, le monsieur. Je ne vais pas être démagogue, mais entre le soleil et le soleil exceptionnel, il est quand même différent. Non, mais tout à l'heure, je ne vous connaissais pas bien, je ne peux pas me permettre. Maintenant, je peux dire la vérité. C'est quand même la première fois que j'ai du beau soleil, non, si. Alors, est-ce que c'est clair pour la discrimination directe? La discrimination indirecte, c'est un peu plus subtil. C'est lorsque une caractéristique, un critère ou une pratique neutre en apparence, quelque chose qui semble être neutre, va en fait défavoriser un groupe plus que les autres. Exemple, si on met une annonce d'emploi où l'on dit 15 ans d'expérience maximum ou 15 ans d'expérience minimum, c'est une discrimination en raison de l'âge, sauf qu'elle est cachée. Vous voyez la notion? C'est lorsqu'on met quelque chose qui n'est pas illégal, mais dont les effets seront les mêmes. L'injonction, c'est l'ordre de discriminer. Mon chef m'a dit que de ne pas prendre de femme à tel poste. Et le harcèlement discriminatoire,
c'est créer autour d'une personne, dans le travail généralement, un environnement hostile, humiliant, offensant, dégradant, portant atteinte à sa dignité. C'est énorme. Une petite remontrance, même musclée, si on est un apprenti et qu'on est un vrai artisan, on veut lui donner tout ce que l'on sait. Ben, si un jour, après avoir répété 3 fois la même chose, on l'engueule un peu, en disant « Mais bougre d'âne, qu'est-ce que tu as dans la tête ?» C'est pas dramatique. Hein. Par contre, si on humilie quelqu'un en permanence, ça c'est du harcèlement. Bien sûr, le bougre d'âne, c'était pas une grosse insulte. Pas le faire. Enfin, bon, vous voyez très bien ce que c'est que le harcèlement. Ça n'a rien à voir. Le but était de lui apprendre. Voilà les définitions de la discrimination. Il n'y a pas d'avantage. Alors, maintenant on a le cadre. Qu'est-ce qu'on a pu reprendre dans les documents que vous avez envoyés? Donc, je me suis évertué à tenir dans un temps court. Ce qui est ressorti. D'abord, ce qui est bien ressorti, c'est qu'il y a le risque interne, c'est la gestion du cœur de métier de l'association ou de la mairie, etc. Autrement dit, la gestion du personnel ou la gestion des bénévoles qu'on recrute. Donc là, vous avez bien identifié une zone de risque. Pour cette zone de risque, quelle est la réponse? La réponse, c'est les outils au niveau du recrutement, dans tout ce qui est les annonces, les fiches de poste, etc., les questions qu'on pose dans les entretiens, toute la gestion des ressources humaines. Là, dans les réponses qu'on a, mais ce n'est pas exhaustif, qu'on n'a pas... Il y a des personnes, enfin des structures, des personnes morales, des structures, qui ont déjà toute une série de procédures, qui ont pris conscience de ces zones de risque, et qui ont, pour certaines, répondu aux 4 questions. Elles ont des fiches de poste écrites, elles ont des référentiels précis, autrement dit, elles ont un référentiel. C'est des grands mots, c'est les consultants adorent les grands mots. Quand on écrit, on essaie quand même de pas... Bon, ça laisse des traces. Après, je risque d'être reconduit à la frontière pour incompétence linguistique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On écrit des choses langue de bois. C'est tout simplement, certaines structures, aujourd'hui, ont pris conscience du risque interne dans la gestion de leurs ressources humaines et ont mis en place des procédures. Deuxième bloc, à l'opposé, des structures qui n'ont aucun outil. Et là, on pourra échanger et débattre. Et au milieu, il y a des structures qui ont fait un peu... voilà. Après, il y a le deuxième bloc qu'on a repéré dans les questionnaires, dans les retours de questionnaires, c'est toute la question de la relation au public. C'est-à-dire la relation au public. Des publics en insertion, des publics qui consomment du loisir, du logement. Donc la relation au public, c'est les critères d'attribution et de refus. Pour certaines structures, elles ont déjà entamé une réflexion là-dessus, mais pas beaucoup. Ça, il faut être très, très clair, il n'y en a pas assez. Hein. Et d'autres n'ont pas encore engagé ce chantier. Quand on accepte, quand on refuse, pourquoi? Est-ce que tous les collaborateurs qui sont dans le processus de décision sont informés, formés et savent utiliser des critères, des grilles, etc., etc. Donc là, en l'état actuel des choses, voilà ce qui ressort des questionnaires avec tout de même une variété de situations. Il y a l'emploi revient souvent, mais pas seulement. Il y a aussi le sport, il y a l'accès aux droits, il y a le handicap, il y a l'égalité homme-femme, qui est une problématique prise en charge dans beaucoup de structures de ce qui ressort du questionnaire. Donc, je crois que le risque majeur, il est bien sûr dans la gestion des ressources humaines internes. Mais la relation publique, c'est un enjeu de démocratie absolument déterminant. La relation au public est absolument essentielle, on l'a un peu négligée au cours, même à la Halde à l'époque, on avait négligé un peu, pas beaucoup, mais un peu, la relation au public. La gestion des ressources humaines internes, c'est relativement facile à régler lorsqu'il y a un pilote de l'avion. Ce qu'il faut, un leadership sur ces questions. Ça ne marche pas s'il n'y a pas quelqu'un qui est chef et qui décide de s'engager. Ça ne marche jamais. Chaque fois qu'il y a discours flamboyant et pas chef qui décide d'y aller, ça ne marche pas. À ce moment-là, c'est pas la peine de se prendre le chou. Tiens, j'ai dit une phrase normale. Donc, il est clair qu'il faut un leadership. Mais la gestion des ressources humaines, c'est l'exemplarité interne. Mais par contre, c'est absolument pas suffisant. Ce qui compte pour la relation démocratique et l'enjeu que vous avez, parce que vous n'êtes pas une entreprise qui fabrique des chaussures, des pneus, des cacahuètes ou de l'eau, vous êtes quand même les uns et les autres, soit les dépositaires de notre autorité déléguée par le vote, donc la légitimité du suffrage, soit des associations engagées et parfois avec délégation et avec argent public pour agir. et parfois des structures, ben c'est tout ce qu'il y a, le monde associatif et les élus. Et là, je crois que la relation au public est un enjeu sur lequel j'aimerais bien qu'on discute, enfin, j'aimerais, je vous suggère qu'on discute, sur lequel je n'ai pas de compétences particulières. Parce que la relation au public, c'est énorme. Le public, c'est tout le monde. Et le public, c'est statistiquement tous les écarts-types par rapport à la moyenne. Ça va de la personne, on n'a pas assez de place en psychiatrie pour la retenir, jusqu'à la personne remarquable. Il y a tous les ventages. La relation au public, c'est énorme. C'est un vrai chantier. Et sur ce chantier, ça ne peut pas se faire tout seul. Il faut que ce soit fait dans le cadre de partenariats de terrain. Entre structures qui échangent leurs pratiques et qui essayent d'avancer. Autrement dit, la relation publique, c'est tous les grands publics, le public qui vient pour obtenir quelque chose de vos structures respectives. Donc voilà ce qui est ressorti des documents. J'ai présenté le cadre et il nous reste une heure pour débattre, ce qui est, je pense, raisonnable. Voilà, donc je suis à votre disposition pour qu'on échange. Et bien entendu, la première question parfois ou intervention s'avère des fois difficile, c'est rare, c'est le choix. Donc vous passez directement à la deuxième. On est là donc maintenant pour échanger, on a du temps.
Moi, je vais tout de suite aller sur la première phrase. Pour être discriminé, il faut le mériter.
Oui, avec des guillemets.
Oui, mais les guillemets, ils servent à quoi?
À justifier la définition. Maintenant que vous avez la définition, vous me dites pourquoi j'ai dit cette phrase.
Oui.
Maintenant que vous avez la définition.
Oui, mais même avec les définitions, il y a des choses qui... si on n'a pas les référentiels, si on n'a pas, si tout ça c'est pas prêt, on peut quand même arriver à la première phrase. Pour ce qui danse, moi en tous les cas. Pour être discriminé, il faut le mériter. On n'a pas de référentiel, on n'a pas.
Écrivez-la différemment.
Intelligemment, on va le faire comme. On va le faire dans la normale, quoi. En fait,
est-ce qu'on se comprend bien? Je parle des personnes victimes de discrimination. Les personnes victimes de discrimination ne peuvent l'être que s'ils remplissent les conditions. C'est ça qu'il faut écrire. Là, c'est une phrase pour attirer votre attention. Donc celle-là, bannissez-la, enlevez-la. C'est une personne ne peut être discriminée que si elle remplit des conditions. Or, le problème, c'est que les personnes qui remplissent les conditions, très souvent, sont discriminées, elles ne s'en rendent même pas compte. Vous voyez? C'est à ça que vous voulez faire allusion. C'est que parfois, les gens remplissent les conditions, se présentent, sont discriminés objectivement et s'en vont sans même s'en rendre compte. Autrement dit, une personne qui ne remplit pas les conditions ne peut pas être discriminée. Je vous donne un exemple. Un jeune homme qui n'a pas le BTS pour un métier d'ascensoriste. Il se présente à une offre d'emploi. On lui dit non, on ne vous prend pas parce que vous n'avez pas le BTS. Et le ton monte et tout le monde s'énerve. Il est possible que ce jeune homme se plaigne d'avoir été discriminé. Ça arrive tous les jours, ça. S'il se plaint d'avoir été discriminé, ça sera faux, parce qu'il ne remplit pas les conditions. Donc, ne remplissant pas les conditions, n'ayant pas le BTS, il ne peut pas être discriminé. C'est QFD. En revanche, s'il avait le BTS, là, il aurait pu être discriminé. Vous voyez? Donc, pour être discriminé, il faut remplir les conditions de recevabilité, soit de son dossier administratif, soit de sa candidature, etc., etc. Et cette phrase était vraiment une phrase, j'ai bien dit, je provoquais, etc. Ne la retenez surtout pas comme... Ah ben bien sûr, c'est pédagogique la provocation. Simplement, une fois qu'on a provoqué, il faut être sérieux dans la pédagogie. Les personnes qui remplissent les conditions dans une démocratie peuvent être discriminées, les autres pas. Je fais beaucoup de débats avec des jeunes parfois, dans des soirées passionnantes, parce que beaucoup sont un petit peu plus vivants que vous. Hein. Ils sont un peu plus turbulents. Ils sont plus turbulents. Et alors, les débats avec les jeunes, quand on arrive à ce moment-là, c'est la vérité des prix. Je dis, mais moi, j'aurais aimé que tu aies été discriminé. Si tu avais été discriminé, ça aurait été chouette. Parce que tu aurais rempli les conditions. Mais là, tu me racontes des faits sur lesquels tu n'as pas été discriminé. Parce que tu ne remplis pas. Par contre, lui remplissait les conditions. Et alors, qu'est-ce qu'il me dit? Oui, mais il était raciste. Je dis, mais ça n'a rien à voir. Comment veux-tu savoir qu'il était raciste? Tu as un scanner pour lire dans les pensées. Par contre, si objectivement il t'a insulté, c'est un autre débat. Et si toi tu l'as insulté, c'est un autre débat. Après, je leur prends toujours l'exemple du stationnement et de l'excès de vitesse. Je dis, avec un scooter, une voiture, si on est en stationnement, on est en infraction, on reçoit une prune, c'est une prune pour stationnement. Et la personne, on disait autrefois l'aubergine, autrefois, ne va pas nous mettre une prune pour excès de vitesse. Et bien c'est pareil, quand on a été insulté, c'est une insulte. Quand on a été discriminé, c'est une discrimination. Et parfois, il y a les deux. Mais c'est important qu'on soit clair sur les personnes qui remplissent les conditions. C'est pour ça qu'il faut toujours commencer par vérifier si la personne remplit les conditions. Ça évite des tas de désagréments, des tas de... Sinon, on rentre dans des impasses. Après, c'est... On cherche le coupable, le bouc émissaire, et on rentre dans la méfiance, dans eux et nous. Vous voyez, on rentre dans ces schémas de rupture de la communauté. Communauté au sens communauté nationale, hein, évidemment. C'est-à-dire, on rentre dans les suspicions. Lui m'a regardé comme ça, elle est comme ça. Et on rentre dans des schémas où tout le monde est dans la suspicion. Pas seulement sur les origines. Hein. C'est sur l'orientation sexuelle, c'est sur les opinions politiques, c'est sur... Non, est-ce que la personne remplit les conditions? Excusez-moi d'avoir vraiment insisté là-dessus, peut-être lourdement, mais s'il n'y a pas ça, tout le reste s'effondre.
Vous ne pensez pas justement qu'on est tendance à trop poser de conditions à un moment donné pour déguiser quelque part une certaine discrimination?
Oui. Alors là, c'est une question très fine. Après, c'est...
quand j'ai fait ma première formation sur ces questions-là, c'était en 1995, en Angleterre, il y avait un monsieur qui m'avait appris beaucoup de choses, je n'ai pas tout retenu à l'époque. Il m'avait fait ça, une échelle. Scale. Il m'a dit, le premier, le basique, vous en France, c'est nettoyer les écuries d'Augère. Il n'a pas dit ça parce qu'il n'était pas assez cultivé. Donc, c'est normal, il était anglais. Donc, est-ce que c'est de la discrimination que je viens de dire? Est-ce que c'est de la sub? Est-ce que ça tente le coup de la loi?
Non,
absolument pas. Absolument pas. C'est de l'humour britannique. Et ça ne vise personne en particulier. Et ça ne vise, je suis sérieux là, ça ne vise personne en particulier. Par contre, se tourner vers cette personne et l'insulter elle en tant qu'anglais en disant tu es inférieur et tout, là, abdominette, là, il y a bien sûr, ça tombe sous le coup d'œil. Ferme-moi la parenthèse humoristique. Et il disait de toute façon, les premières à gérer, c'est direct, c'est ce qui est basique, quoi. Je veux pas de toi parce que tu es une femme, je. Et à mesure que le temps passe, que vous luttez contre les discriminations, ça se sophistique. D'accord? Donc après, les gens vont passer à... Et là, ça peut devenir de la discrimination indirecte. D'accord? Quand on débute les discriminations directes, on fait gros plan sur les problèmes qu'on voit. Après, il faut raisonner pour aller débusquer les discriminations indirectes. Et il faut monter. Et puis il y a un seuil à partir duquel il y aura des discriminations, mais ce sera dans les très hautes sphères. Par exemple, les cooptations... dans certains domaines, sont légales, bon, mais on coopte pas n'importe qui. C'est ce que j'avais d'ailleurs dit à ce monsieur anglais qui m'avait beaucoup appris. Je lui ai dit, oui, mais quand même, parce que quand même, on en a pris plein la tête. Nous, on était à l'âge de Cro-Magnon sur le sujet en 1995. Je lui ai dit, oui, mais chez vous, dans certains clubs, il n'y a pas beaucoup de Pakistanais. Pakistanais, c'est l'équivalent de leurs Arabes chez eux. Hein. Dans certains clubs où il y a de la cooptation, les Pakistanais disparaissent. Donc, c'est très subtil. Par contre, ce qui compte, c'est que sur 1000 actes, il y ait une discrimination. Si par contre, sur 1000 actes, il y en a 900, c'est très grave. Vous voyez, bien sûr qu'il y a des tas de stratégies de contournement, de plus en plus subtiles d'ailleurs. Pour, par exemple, l'égalité homme-femme, même sur la loi sur... La seule loi sur le handicap, là, les stratégies de contournement, c'est fini. Pourquoi? Tout le monde connaît la réponse. Parce qu'il y a un enjeu financier. C'est un enjeu important. Il y a une vraie sanction financière.
On parle de discrimination à l'emploi. Moi, je constate un sujet très fréquent depuis quelques années. Dans des périodes difficiles où l'emploi est rare, vous voyez des CV qui sont limite faux parce que trop surdiplômés par rapport au poste recherché. Et là aussi, on est dans une situation, quand on est recruteur, très difficile à gérer, parce que il est facile pour un poste d'ouvrier de recruter un BTS, parce que vous en avez dans le panel. Donc, si vous êtes honnête avec les gens que vous recrutez, vous limitez vos CV correspondants, mais on entend de plus en plus fréquemment maintenant des CV qui sont faux, parce que les gens sont trop diplômés et ils savent que en mettant un CV exact, ils ne seraient pas recrutés. Donc c'est grave d'en arriver à des situations comme ça, vous ne trouvez pas?
Oui, mais là on est dans les stratégies de contournement de la part des publics. La pénurie de l'emploi, alors là nous ne sommes pas dans la discrimination. Nous sommes dans des stratégies où des personnes qui ont beaucoup de diplômes savent que si elles disent qu'elles ont tous ces diplômes, elles n'auront pas les postes souvent manuels catégorie C, on va dire, pour l'univers de la fonction publique, ou des postes d'exécution dans les entreprises. Parce que tout simplement, s'ils trouvent mieux, ils s'en iront.
C'est l'autodiscrimination.
Oui, si vous voulez, mais ça n'a rien à voir avec la discrimination, ça a à voir avec une stratégie. Le mot discrimination n'est pas approprié au sens où on vient de le définir. Par contre, c'est des stratégies d'adaptation à la pénurie d'emploi. C'est une stratégie d'adaptation. Les gens masquent une partie de leur qualification, de leurs compétences, pour pouvoir être pris. Alors ce système, il est assez ennuyeux. J'avais travaillé à l'époque avec certaines entreprises et il y a des entreprises qui faisaient remplir des dossiers. Il y avait une entreprise nationale, je ne la citerai pas, parce que tout a changé depuis cette époque-là. Et les gens devaient déclarer sur l'honneur qu'ils relevaient de la catégorie. Donc ils devaient déclarer sur l'honneur qu'ils n'avaient pas des diplômes. Et bien, il y avait toute déclaration mensongère est punie, etc., etc., etc. La porte d'entrée au STCL-là, ça leur permettait de rentrer dans la place. Deux hypothèses. Soit ils rentraient dans la place et après ils montraient leur diplôme et il y avait de la mobilité possible et ils retrouvaient des postes à leur mesure. Soit c'était pas possible. Et là, souvent ces gens-là deviennent très malheureux parce qu'ils sont à un niveau qui est très élevé. Ils se retrouvent dans un niveau, je parle de fonction publique et de structures assimilées au secteur public pour l'instant. Et ça peut être très très néfaste pour eux à titre personnel. Et enfin, c'est déloyal par rapport aux catégories. C'est déloyal.
Le DRH qui recrute surdiplômé par rapport au poste à pourvoir, il est discriminé
non,
ou pas ?
Non, il a le droit, dans le droit privé, là on est dans le recrutement privé. Là j'ai fait ma petite focus sur le public, là je passe au privé. Dans le privé, l'employeur est entre guillemets souverain pour définir les... Il peut très bien demander à un polytechnicien pour ouvrir les portes et les fermer. Si il le paye à la mesure et il... Je prends caricature, je caricature à outrance. Et il peut se le permettre et l'autre l'accepte. C'est un contrat synalagmatique, c'est un contrat de gré à gré. Dans la mesure où l'objet n'est pas illégal, ils peuvent signer le contrat. Et s'ils respectent le code du travail et que l'autre accepte, il n'y a pas de souci. En revanche, le problème que l'on a, c'est pas celui-là. C'est les employeurs qui surdiplômaient les postes, qui demandaient beaucoup, beaucoup de diplômes pour des choses... Or, les employeurs en sont revenus. Parce que le turnover, dès qu'il y a une meilleure conjoncture ou meilleure fortune, que fait le salarié ? Ben, il s'en va. Donc aujourd'hui, les employeurs essaient au maximum de calibrer les diplômes. Et puis, les diplômes sont... Bon, il y a encore la diplomite aiguë. En France, elle sévit encore, c'est une maladie du côlon. Eh bien, la diplomite aiguë existe encore, parce que le diplôme, c'est quoi ? C'est un indicateur de niveau. Jamais un diplôme ne m'a dit si la personne était compétente, et moins encore si elle était intelligente, et certainement pas si elle était humaine. Donc un diplôme, c'est un indicateur de niveau. J'en parle très aisément, je suis un pur produit de l'université, donc des diplômes. Mais simplement, c'est un indicateur de niveau. C'est... Aujourd'hui, les employeurs cherchent à combiner trois choses. Un niveau adapté au poste. Un niveau adapté, juste ce qu'il faut. Deuxièmement, une opérationnalité immédiate, si c'est pour un poste, si c'est pour un apprenti, non. Et c'est un potentiel. Une opérationnalité, c'est-à-dire qu'il puisse tenir le poste. Si c'est de l'accueil, l'accueil, c'est un métier difficile. Eh bien, la personne est capable de faire plusieurs choses en même temps, etc., de contrôler ses nerfs, d'être souriant. Donc, un, le niveau. Donc, si on est analphabète dans un accueil, aujourd'hui, c'est impossible. Numéro 2, une opérationnalité, donc des compétences opérationnelles, et 3, des compétences comportementales. D'accord ? C'est-à-dire un comportement adapté à ce type de poste. C'est là-dessus que focalise de plus en plus. Et bien sûr, il y a des endroits où le diplôme est une nécessité absolue, et il y a des postes réglementés par le diplôme. Si on n'a pas le diplôme, il ne faut pas. Continuons dans l'échange. Pour ce que vous faites, surtout vos métiers, enfin vos pratiques, là où vous êtes, peut-être, dans ce que vous faites. Est-ce que ça vous apporte des éclairages ?
Une petite observation. Sur ce point précis, ce qui manque, c'est de la part de l'employeur qui recrute, quelque part, une obligation de dire pourquoi il ne prend pas celui-là. On manque quelque chose parce que, en termes d'outils, l'employeur recrute, il a sélectionné 1 sur 10 et les 9 autres ne sont pas pris, mais beaucoup ne comprennent pas ou ne. Voilà, il manque cette information et nulle part elle existe dans aucun code, il n'y a pas obligation pour l'employeur de dire pourquoi il n'y a pas. Ça, c'est un. Et par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, que j'apprécie beaucoup, Je dirais que dans la définition que vous donnez, où il faut un leader qui donne impulsion, etc., c'est très bien, c'est tout à fait nécessaire, bien sûr. Simplement, pour compléter ça, par dire ensuite un contrôle. Contrôle de ce que je demande. Parce que dans les dossiers que nous avons à traiter avec le public qui vient nous voir, la plupart du temps, quand on est dans des organisations importantes, d'entreprises, ou de services de l'État, ou de services de collectivités locales, on s'aperçoit que l'autorité est sur la bonne voie, elle a donné le bon tempo. Et ensuite, il y a les politiques individuelles, la hiérarchie intermédiaire, qui, si on ne la contrôle pas, elle a un rôle, et jusque d'ailleurs au guichet. Parce que le face-à-face, la relation avec le public, elle ne se fait pas avec la hiérarchie, elle se fait avec la personne du guichet.
Exactement.
Et si la personne du guichet n'a pas été convaincue, n'a pas été informée, n'est pas régulièrement contrôlée, la hiérarchie peut avoir sa bonne intention et sa bonne ligne, et qu'à la sortie, on se trouve dans un système d'échec. Et la plupart des dossiers que nous manipulons avec le public qui vient se plaindre, c'est la plupart du temps ces situations-là qu'on rencontre. Et quand on s'adresse à la hiérarchie supérieure, on dit, attendez, chez vous, là, ça va pas. Comment, moi, défaillance au niveau intermédiaire et au niveau du contrôle.
Alors, vous soulevez évidemment la question du plan et de l'action stratégique, du plan stratégique. Et ça, ce qui vient d'être dit, est essentiel. Le schéma, je vais le re-résumer, le reformuler à partir de ce que vous avez dit. Le premier point, c'est l'engagement de la direction. Alors, on l'appelle top management, on l'appelle, je suis républicain sur les appellations, on appellera ça comme on voudra, top management, niveau stratégique, niveau décisionnel supérieur, on appellera comité suprême, on appellera comme on voudra. En tout cas, les gens qui très haut décident doivent s'engager. Comment ? Un, d'abord en étant eux-mêmes convaincus et formés et savoir de quoi ils parlent. Sinon, c'est encore une fois... Il faut que ce soit très clair dans leur tête. Une fois que le haut est parfaitement convaincu. Numéro 2, ils mettent en place un système d'information de tout le monde. Tout le monde doit être informé. Je n'ai pas dit formé. Quand vous avez 40 000 personnes, j'ai une grande entreprise avec laquelle on travaille en ce moment, on a formé 80 référents dans les régions et 20 formateurs internes qui vont déployer sur les 30 000. Ça prendra 10 ans. D'accord ? Donc, informer. Informer, ce n'est pas grand-chose. Tout le monde sait que c'est un vrai sujet stratégique. Ensuite, créer dans l'organigramme la fonction. La fonction égalité, diversité, avec un service et des moyens. On n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. Mais j'adore les expressions. D'ailleurs, vous aurez droit avant la fin de la réunion à une de ma grand-mère, en arabe et traduite. Donc, il faut impérativement que dans l'organigramme, la fonction soit créée. Avec un vrai service et de vrais moyens. Et une légitimité, une autorité. On ne prend pas quelqu'un à Libye pour faire monsieur ou madame diversité. Il faut que ce soit quelqu'un qui, d'abord, que le sujet passionne, intéresse à tout le minimum, et qui se forme lui-même et crée une équipe. Je continue. Après, qu'est-ce qu'on met en place ? L'information, on l'a dit, ça va prendre déjà beaucoup de temps. Après, on fait des formations ciblées sur les zones de risque qu'on a identifiées, avec ou sans audit. On peut, dans certains cas, avoir besoin d'un audit. Aujourd'hui, il y a des consultants, voilà, sur ce sujet. 95, c'était pas un marché, il n'y avait personne. Mais maintenant, il y a beaucoup de gens. Bon, on fait de l'audit si on veut, mais le plus important, et j'en fais partie, donc je suis heureux. Et après, qu'est-ce qu'on met en place ? Des formations ciblées. Ces formations doivent être opérationnelles, avec de vrais outils. Après, on met en place des structures d'écoute. Quand c'est une grande... je parle de grande, je ne parle pas de petite. Les petites, vous réduisez. Après, c'est les fameuses cellules d'écoute. Il faut absolument que les gens qui ont le sentiment d'être discriminé, je dis bien le sentiment d'être harcelé ou discriminé, puisse en confiance et en confidentialité aller parler à quelqu'un pour qu'on lave notre linge sale en famille, de préférence, parce qu'il y a la confiance. Et après, il faut mettre en place des systèmes de contrôle aléatoires. Par exemple, une fois par semestre, je demande, je vais faire l'inverse, donc monsieur Florentin est mon chef, et puis une fois par semestre, je ne sais pas quand, il m'invite avec mes petits dossiers sous le bras, et il prend les dossiers, il me dit celui-là, hop, vous le sortez, voilà, M. Amdani, comment vous avez fait pour donner à celui-ci telle... Et je dois lui argumenter pourquoi j'ai attribué du contrôle aléatoire, inopiné. Il fait du contrôle qualité, Et en même temps, je sais que cette épée de Damoclès, c'est sur mon... Après, ça devient une habitude. Après, c'est un engagement qualité. Après, je suis très content. Il me dit, vous savez pourquoi je le fais, M. Hamdani ? Parce que c'est pour les citoyens. Et là, on réintroduit du sens. Voilà ce qui manque souvent. C'est la botte de Nevers. C'est la cerise sur le gâteau, c'est la fin du film. C'est qu'il faut que l'on construise du sens avec les équipes. Si on fait que de la technique, ça ne marchera pas. Il faut que il me dit, mais vous savez pourquoi on le fait, M. Hamdani ? Vous avez signé le jour où vous êtes rentré agent de la fonction publique, vous avez signé un engagement. C'est le sens. Et si je suis dans le privé, c'est ce qui fait la qualité de notre... Donc là, on recrée le sens. Le sens doit être posé au début par les grands chefs. Mais on ne les croit pas au début. On dit, ouais, c'est un truc. Et si tout cela marche, et qu'on a ensuite le sens à chaque fois, et enfin, il faut du temps. Le général, temps. C'est-à-dire qu'il faut, pour une petite structure, pour que les habitudes changent complètement, si on est 10 dans la structure, 10 personnes, il faut 2 ans pour que nos habitudes changent complètement. Et nous sommes 10, on se voit tous les jours. Moi, ne serait-ce que sur l'humour, légèrement, comment dirais-je, gaulois, le temps de s'en débarrasser, ça a été long. Hein. D'accord ? Avec certains collègues ou avec des gens avec qui j'ai l'habitude de travailler. Donc, il faut un peu de temps. Sans le temps, on ne peut pas. Et là, il faut être très, très, comment dirais-je, patient mais ferme. Vous voyez, c'est important cette histoire du temps. Souvent, on dit c'était pour hier et on l'a fait avant-hier. Mais non, il faut du temps pour ces questions. Parce que certaines personnes, ça va impliquer chez eux des modifications. C'est trop violent. Vous voyez, j'ai choisi avant comme ça. On prenait nos enfants l'été, on leur donnait des stages, on informait notre famille d'abord s'il y avait un poste qui se libérait et c'était eux qu'on prenait, on ne faisait pas d'annonce, on était sur un système quoi. Et puis on vient, on me change tout. Sans prévenir, en me disant ce que tu faisais n'était pas bien. C'est-à-dire dans une logique de stigmatisation encore une fois. Non, il faut que ce soit... Pardon d'avoir été long là-dessus, mais je crois que c'est de ça que vous attendiez peut-être de cette réunion. Et par contre, la plaie, P-A-I-E, c'est de chercher ou de rechercher quand on s'est engagé des coupables. Et de commencer à creuser dans le passé pour... ça, c'est pas possible. Si on décide d'aller, on regarde l'avenir. D'accord ? Sinon, si on cherche des boucs émissaires et on commence à regarder derrière en disant « Celui-là, il a discriminé, on saurait sortir les trucs des placards », ça devient un règlement de compte, enfin, ça devient la convention ou la terreur. C'est pas sérieux. Sur un sujet comme celui-là, il faut pas chercher des boucs émissaires. On dit « On s'est engagé ». Et on va aller de l'avant, mais on ne cherche pas des boucs émissaires.
Mais le fait de faire une délégation, c'est souvent ce qui est arrivé. Le fait que le grand patron il délègue à ses subordonnés, si ça coince à un moment donné, c'est pas lui qui va trinquer, ce sera le pauvre qui est absolu.
Attention.
Parce qu'il aura mal. Qu'est-ce qu'il va dire ? Vous m'avez mal montré, vous m'avez mal expliqué.
Oui, c'est pour ça que j'ai commencé par dire, il faut que les grands chefs soient parfaitement formés et connaissent bien le sujet avant d'engager le chantier. Mais si la responsabilité du dirigeant est toujours engagée, par contre, s'il a mis tout ce qu'il faut en place et peut démontrer que c'est une initiative personnelle de tel collaborateur, là j'ai quelques exemples, je ne citerai pas évidemment, de licenciements pour faute grave pour des gens qui ont discriminé. Ils ont été formés dans des entreprises privées. Hein. Ils ont été formés, ils ont eu tous les éléments pour ne pas commettre d'actes discriminatoires comme par le passé. Il y a eu des contrôles, ils ont été attrapés négatifs. Il y a eu un deuxième contrôle, on l'a remis, et puis à la troisième fois, je crois, il a eu des avertissements là, et il a été licencié parce que cette personne, pour des raisons idéologiques, refusait d'appliquer la politique de l'entreprise. Mais attention, pour être licencié pour discrimination, il faut vraiment l'avoir. Plus que chercher. Donc en fait, s'il délègue, il doit déléguer une responsabilité. Il ne doit pas déléguer un risque. On est d'accord.
Oui, tout à fait. Oui, mais dans certains postes de travail, vous avez bien ce... Je parle par exemple de la profession de ACMO en territorial, enfin, pour ce qui concerne, et responsable ou animateur de prévention en entreprise. C'est pas du tout la même chose. Quoique maintenant, dans le territorial, on dit ce qu'on dit en privé, c'est que tout un chacun est responsable de la sécurité de l'autre. Auparavant, et il n'y a pas si longtemps que ça, c'était pas du tout comme ça. Ce que vous avez dit, c'était pas, c'est, en tous les cas, pour ce que j'ai pu vivre pendant 10 ans, c'était pas ça du tout.
Oui, mais
c'était que la responsabilité, on avait la responsabilité, on n'avait pas toujours tout, hein, on n'avait pas toutes les... Il fallait 4 choses, c'était la responsabilité, le pouvoir, l'argent et...
La reconnaissance.
Connaissance, on n'avait pas forcément l'argent, mais on avait toujours la responsabilité.
Oui, mais dans les... Enfin, là, je ne suis pas spécialiste du droit public et de la fonction territoriale sur les responsabilités.
Je veux dire par là que la discrimination, elle a toujours été de ce côté-là. Qu'elle n'est pas du tout dans la territoriale.
Mais aujourd'hui, elle est cartographiée dans les risques. Elle fait partie des risques. Par exemple, les risques de... Je ne sais pas, moi, les risques d'incendie. Il y a énormément de risques.
Ah oui.
Une manifestation publique pour un maire, c'est aujourd'hui le cauchemar, un échafaudage. Bref, les élus aujourd'hui ont pleinement conscience de cette logique de risque. La discrimination s'inscrit aussi dans la zone des risques potentiels.
Oui.
Il y a un risque judiciaire, mais il y a aussi un risque d'image, un risque de réputation, etc. Donc, la discrimination aujourd'hui est vécue comme un risque. Donc, elle relève de la responsabilité de la structure. Quelle est la responsabilité de l'employeur ? Un, aujourd'hui, c'est d'avoir informé et formé. Et mis en place les moyens pour ne pas discriminer. Quand il a fait ça, en principe, sa responsabilité est relativement dégagée. Sauf, bon après, il faut rentrer dans le cas par cas. Hein. Par contre, si, ayant fait tout ça, il a quand même 1 ou 2 ou 3 agents qui continuent de discriminer, là, ça devient une responsabilité individuelle. Pour que ça, mais je crois que c'est classique en droit public, ça, ce que je raconte là. Je ne suis pas un grand spécialiste de peut-être des personnes plus compétentes que moi en droit public, mais que ce soit en droit privé, c'est pareil. Je veux dire, une responsabilité, ça se contextualise. Et on voit s'il y a eu obligation de moyens, si elle a été au rendez-vous l'obligation de moyens. On voit ensuite s'il y a vraiment une intentionnalité d'un acte personnel commis par quelqu'un qui voyait très bien que ce qu'il faisait et qui a été formé, informé, patati et patata. Mais aujourd'hui, la notion de responsabilité, par exemple, dire une structure qui n'a rien fait et où tout le monde discrimine, et puis du jour au lendemain, on dit c'est tel salarié un lampiste qu'on va faire payer, aujourd'hui, cette structure-là, ça ne marchera pas. On a même une jurisprudence, je ne l'ai plus en tête, hein. Je ne l'ai pas en tête là tout de suite, il faut que je la cherche, mais une jurisprudence sur laquelle on a situé les responsabilités et l'employeur a quand même été condamné. La responsabilité a été jugée partagée.
C'est plus courant, entre guillemets. Maintenant.
Oui, oui.
Beaucoup plus maintenant. Alors, c'est bien d'ailleurs.
Donc c'est à mieux.
C'est à mieux. Puisque...
C'est à mieux. Madame.
Oui, moi je voudrais évoquer la question d'organisations qui, en raison de pression financière, induisent des formes de discrimination. Je voudrais donner 2 exemples. Par exemple, un hôpital avec des services qui sont saturés, ils vont choisir entre les différents patients, les pathologies les plus rentables, entre guillemets. Ou bien une association qui est qui a une mission de service public, qui jusque-là était dotée, avait comme subvention une dotation globale, ce qui lui permettait vraiment d'accueillir toutes les personnes qui avaient besoin des services de l'association. Et bien maintenant, la collectivité territoriale, le conseil général pour préciser, dit « Ah, on va passer de la dotation globale à une dotation qui va être une prestation de compensation du handicap mutualisée. » C'est-à-dire que là, c'est en fonction des personnes. Donc, un directeur se dit « Bon, ben, je vais choisir les personnes, je ne vais pas tenir compte de leurs besoins, mais... Est-ce qu'elles ont la prestation de compensation du handicap et je vais les garder. Enfin, vous voyez, ça induit des formes de discrimination. Je ne sais pas si c'est très clair.
Mais si, c'est très clair.
Parce qu'on a des pressions financières qui nous obligent à être rentables et à laisser sur le bord du chemin des gens qui devraient, par exemple, par rapport à l'emploi aussi, c'est très très clair. On a des dispositifs d'insertion professionnelle. On est malheureusement obligé, les personnes les plus éloignées de l'emploi, personne ne les veut, donc on se les refile d'organisme en organisme, c'est terrible sur le plan humain.
Alors, ce que vous soulevez, c'est exactement cette question du schéma que j'ai tracé. Qu'est-ce qui relève de la discrimination, qu'est-ce qui relève de l'égalité des chances, etc. Sur le premier point, l'hôpital, alors là, il y a d'abord un principe, c'est tout ce qui relève de l'obligation de soigner. Donc là, vous connaissez ces questions-là, donc il y a déjà aux urgences, etc., c'est impensable. Enfin, donc on est bien d'accord. Donc déjà, sur ce qui relève du code de la santé et des obligations de soins, on est déjà sur un périmètre. Après, c'est lorsqu'on est sur des systèmes où l'hôpital a juridiquement le droit d'accepter ou de refuser. Et ma première question, c'est est-ce que... C'est le raisonnement qu'il faut avoir. Pardon madame, mais je peux paraître inhumain dans le raisonnement. Mais faites-moi le crédit de savoir que je ne suis pas du tout un monstre. C'est-à-dire que vraiment, ce que vous avez dit d'humain m'a beaucoup touché. Mais je suis obligé de faire un raisonnement froid pour vous répondre. Sinon, je ne jouerai pas mon rôle. C'est humainement insupportable, toute situation vécue. Mais il faut d'abord raisonner dans un cadre démocratique. Numéro un, il y a les obligations de soins, l'urgence, il y a énormément de choses qui permettent déjà de... Après, c'est lorsque l'hôpital ou la clinique a la possibilité juridique, à ce moment-là, s'il fait entre guillemets son marché, et si c'est ça, on n'y peut rien. On n'est pas dans la discrimination. On est dans des choix qui sont des traitements différenciés, mais légaux. C'est ça qu'il faut vérifier. Par contre, tout traitement différencié, illégal, il faut déposer plainte. Moi, je suis un fervent partisan du dépôt de plainte, sérieux, argumenté, documenté et froid, après sommation, après avoir fait un recommandé, où on demande à la personne de... Si elle révèle sa récente réponse, il faut saisir la justice, sinon il n'y a pas de droit. En plus, on a la jurisprudence, c'est merveilleux, la justice. Pardon, oui, allez-y.
Mais les gens ne le feront pas.
Oui, on y arrivera après, madame, si vous voulez. On reprend après. Ouais, allez-y.
Pourquoi ils ne le feront pas? Je prends par exemple aujourd'hui l'établissement de l'hébergement de personnes âgées dépendantes. Aujourd'hui, les personnes sont refusées à l'entrée parce qu'elles ont, elles sont trop en perte d'autonomie. Et qu'à partir de ce moment-là, le personnel n'ayant pas les moyens, là par contre, effectivement, cela la possibilité de dire je ne peux pas parce que je n'ai pas les moyens. Alors qu'il faut. On est là devant, et il n'y a pas, et à ma connaissance, il n'y a pas de règle de droit alors, actuellement.
Alors, madame.
Mais les familles ne peuvent rien dire.
Vous me permettrez de revenir après à ça pour terminer ce raisonnement, mais la réponse me brûle les lèvres, mais j'y reviens après. Hein. Donc, vérifier la légalité. À partir du moment où il n'y a pas d'égalité, d'ailleurs ça commence à répondre à cette question, dès lors que ce n'est pas illégal, c'est leur choix, on ne peut rien y faire. Par contre, la deuxième question...
Allez-y.
Mais par contre, c'est des raisonnements qu'il faut tenir. Hein.
Parce que quand on écoute la dame qui a parlé, la première idée, c'est est-ce que deux personnes, une des deux personnes qui étaient présentes a été choisie sur quel critère?
Voilà. C'est là où le risque discriminatoire devient possible.
Voilà.
C'est là où le risque discriminatoire est possible. En revanche, si c'est, on n'a plus les sous, les caisses sont... Par exemple, une mesure pour l'emploi. Imaginez, je suis un petit employeur et j'ai une petite belle petite PME, une soixantaine de salariés, je prends des mesures à Pôle emploi. Si j'arrive au mois de novembre et qu'ils me disent c'est fini, on les a plus, il faut attendre l'année prochaine, il n'y a pas de discrimination. Puisque là, on est bien sur quelque chose qui est le périmètre de l'égalité des chances. Il est déjà dérogatoire. Et dans ce périmètre de l'égalité des chances, c'est sous réserve de moyens. C'est ça qui, humainement, est difficile. Ce que vous avez soulevé est une question très, très, très fine qui renvoie à l'humain. Mais là, il n'y a absolument pas de discrimination. On arrive au jour J, et ce n'est pas le décembre 31, et on n'a plus les moyens de le faire. Deuxième, donc le refus est motivé. Le deuxième refus motivé, c'est la sécurité. Si je ne peux pas recevoir dans des conditions de conformité. Bien sûr. Par exemple, je suis, je ne sais pas, dans un truc, et vous venez, je dis non, je ne vous reçois pas parce que je n'ai pas les conditions de sécurité. Alors là, on est tout à fait... la personne est noire, ou bien tout ce qu'elle veut, sur les 18 critères. Ou elle a les 18 critères en même temps, ce sera difficile. Bon, enfin bon. Il faut être très 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 précis. Là, on ne peut pas parler de discrimination. Dès qu'on rentre dans le périmètre de l'égalité des chances, la probabilité pour qu'il y ait discrimination devient très faible. Et là, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Ce qu'a dit monsieur, c'est est-ce qu'on a encore les moyens pour deux places, mais ces personnes sont arrivées, on les refuse, parce qu'on a au téléphone reçu un appel, il dit la semaine prochaine réservez-nous le lieu de place pour quelqu'un d'autre. Ça s'appelle un piston, je crois. Bon, je crois. Hein. Je croyais que c'était pour une voiture, mais j'ai découvert que ça avait un autre sens. Et là, ces deux personnes-là peuvent rester en justice le jour J où elles sont présentes. Vous voyez ? Mais c'est pas ça le problème d'elles, parce que je croyais que c'était ça que vous voulez soulever pour la justice. Les gens ne portent pas plainte sur ces questions, c'est culturel. Oui. En France, nous portons plainte majoritairement tous pour des questions de voisinage, par exemple, pour ce qu'on appelle l'interpersonnel. Hormis le travail, l'emploi, les prud'hommes, etc., il est rare que l'on porte plainte dans le contractuel. On porte plainte dans l'interpersonnel, le chien qui aboie, plein de choses, et on embête souvent notre élu de proximité, le maire. Et puis, rarement, on porte plainte contre une assurance. Par exemple, j'ai une assurance sur laquelle je peux démontrer, au lieu de changer d'assurance, je reste dans cette assurance et je porte plainte en restant dans l'assurance, par exemple. Donc on a un problème culturel de déposer une plainte contre une autorité, contre une personne morale. Tous, on a cette tendance. Et parfois, on veut porter plainte pour des choses qui ne sont pas des préjudices, qui sont des préjudices, entre guillemets, symboliques. Symbolique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de préjudice réel. Donc ce que j'ai dit tout à l'heure, s'ils ont refusé pour des questions de sécurité, il n'y a pas préjudice. D'accord ? Au sens d'ester en jeu, on ne peut pas déposer plainte pour ça. En revanche, il y a vraiment un préjudice, entendons-nous. La personne n'a pas obtenu le soin.
Préjudice ?
Oui. Mais ce préjudice ne peut pas, on ne peut pas s'en prévaloir pour déposer plainte. Vous voyez ? C'est là où il faut être très fin pour ne pas, parce que, pour ne pas mettre ça sur le dos d'une personne qui ne m'a pas pris parce qu'elle était. Parce que dans la réalité des choses, qu'est-ce qui se passe? Le professionnel n'est pas formé pour ce refus. Comme il n'est pas formé sur ce refus, il ne communique pas comme il faut. Du coup, les gens partent avec une mauvaise information. C'est souvent comme ça que ça se passe. Et quand ils partent avec une mauvaise information, avec la rumeur, les rancœurs, les machins, et ils ne portent pas plainte en plus. Ça fait que du bruit, que des mots. Mais ce qu'il faut, c'est que les professionnels apprennent à dire non en l'expliquant, en le motivant. Et ça, c'est du professionnalisme. Par contre, ça demande beaucoup de distance. Et de refuser et d'expliquer, la personne ne vous dira pas « Oh, j'ai très bien compris, merci, vous m'avez bien expliqué. Donc je pars avec mon refus, mais satisfait. » Attendez, mettez-vous alors à chacun d'entre nous. Enfin, je vois pas une personne humaine normalement constituée qui réagit comme ça. On va réagir avec un peu d'émotion. La deuxième question, c'était la prestation de compensation. Alors, encore une fois, c'est pas spécialiste de toutes ces questions dans le détail, mais lorsqu'on a une dotation globale, bien, c'est un cadre. Alors, vous semblez le regretter, c'est légitime.
Oui, ça donne la souplesse.
Tout à fait, ça permet de faire un peu comme la LOLF. Hein. Ça permet de faire passer... Bon, c'est très bien. Mais simplement, lorsque un cadre juridique change, et là, vous êtes sur une prestation de compensation qui est très précise, avec des conditions d'attribution très précises, à partir de là, les personnes que vous refusez ne rentrent pas dans le périmètre. Donc, on ne peut pas parler de discrimination, on parle d'inégalité de traitement. C'est une inégalité. Maintenant, il faut absolument que vous introduisiez ces nuances. L'inégalité de traitement, c'est une injustice, si vous voulez. Une injustice, c'est un beau mot français. Une inégalité de traitement, c'est une inégalité. Mais elle est dans un cadre légal. Donc, ce n'est pas une discrimination. C'est juste pour que les soient bien gardés, comment on dit, pour soient bien gardés.
Les vaches soient bien gardées.
Merci beaucoup. Vous voyez, en bon méditerranéen, j'ai pensé aux moutons, mais c'est un autre débat. Est-ce que vous voyez le raisonnement? Le raisonnement, c'est que vous dites, attention, c'est une injustice, c'est une inégalité. Et là, le chantier est politique. C'est là où la citoyenneté retrouve ses droits. Là, madame, avec d'autres, si vous êtes sur une logique citoyenne, qu'est-ce que vous faites? Vous interpellez vos élus, vous montez au créneau, vous créez du rapport de force citoyen, et là, on cherche à changer les choses. Par contre, pourquoi diable mettre la discrimination là-dedans? J'ai entendu même une fois, je crois, M. Johnny Hallyday dire qu'il était discriminé sur un truc qui n'avait rien à voir avec la discrimination. J'ai beaucoup d'amitié pour M. Johnny Hallyday, comme chacun d'entre nous. Mais enfin, si on met discrimination dans tout, ça ne signifiera plus rien. Et les gens réellement victimes ne pourront pas déposer plainte tellement ils seront noyés sous le... Il faut garder ça pour les choses de rupture illégale du principe d'égalité. Et cette pédagogie-là permet, vous voyez, d'être plus efficace quand on veut combattre une... Mais injustice, malheureusement, une symphonie. D'autres remarques?
Il y a aussi le fait, c'est politique, je pense que c'est pas la discrimination.
Politiquement, la retraite est passée à 60 ans.
Ah.
Non, moi j'ai eu un cas. Et la retraite est passée à 60 ans pour les chômeurs de longue durée et pour les handicapés. Les handicapés. Dans la retraite.
Mais la retraite dans le public, dans le privé
Dans le privé.
D'accord, elle n'est pas passée à 60 ans, elle est passée à 55 ans en fonction de certaines.
Non, mais je veux dire, on doit prendre les chômeurs de longue durée et les handicapés sont obligés de prendre leur retraite à l'âge de 60 ans, 60 ans et 3 mois, 60 ans et 6 mois.
J'ai ces notions-là.
Je peux vous dire aussi. Et le problème, c'est que la personne est en invalidité, elle a une assurance, elle ne paye plus pour différentes choses, elle ne paye plus. Elle se retrouve à demander la retraite par obligation, pension revalorisée. Elle perd tous ses acquis précédents. Alors, elle touchait moins d'argent qu'en étant en invalidité, puisqu'en retraite depuis un certain temps. Et elle se retrouve à payer du loyer, par exemple. Et là, c'était l'exemple. Elle se retrouve à payer un loyer pas possible, ce qui lui reste comme possibilité de vivre, puisque vous savez très bien que la première année et la deuxième année, il faut payer les impôts, il faut payer tout ce qu'il faut payer. Qu'est-ce qu'on lui dit à cette personne? Vous ne pouvez pas, ben c'est normal, c'est logique, que c'est la loi. Voilà. Alors moi, je veux bien, j'ai intervenu auprès de personnes politiques, mais ça ne change rien.
Vous vouliez intervenir là-dessus?
C'est quoi ton emploi,
c'est de temps? Oui, c'est combien d'années de cotisation? Ben, là,
combien d'années de cotisation?
Et quel est l'âge d'entrée dans la vie active? Et donc, il y a plusieurs paramètres.
Elle avait 17 ans.
Et donc là, c'est un cas qu'il faut traiter avec, parfois, en allant vers des conseils, y compris des organisations syndicales qui connaissent bien le sujet, ou des conseils spécialisés, et la CAF, et toutes les structures qui peuvent...
La CAF, on n'a pas de renseignement.
Donc, déjà, de trouver des structures spécialisées, et deuxièmement, ça peut être un cas de médiateur. Et ça ne peut pas être un cas de discrimination. Ça peut être un cas du fameux médiateur. Dans certains cas, les effets imprévisibles d'un texte de loi, la réforme des retraites qu'il y a eu, elle n'a pas non plus prévu tous les cas. Donc il est fort possible, ce cas évidemment que vous avez signalé, on n'a pas le détail, on n'a pas le dossier, on n'est pas dans le dossier là. Donc sous réserve de bien examiner le dossier, si le cas est aberrant, même si légalement il semble conforme, le défenseur c'est une de ses missions. Je dis bien le défenseur, parce que vous savez bien que le défenseur c'est plusieurs missions, hein. La mission qui est représentée ici par nos collègues, amis délégués, et la mission sur la notion de discrimination qui a été internalisée. Mais le défenseur, le médiateur de la République, le médiateur de la République, et la médiature existe toujours. Sous la forme nouvelle. Oui, à l'intérieur. Je voulais dire, à l'intérieur. Absolument. Défenseur, mais à l'intérieur, il y a toujours la notion de médiation. Il a toujours la fonction de médiation. Et là, c'est le genre de cas où il faut vraiment, quand on a d'abord saisi des femmes et des hommes de l'art, c'est-à-dire spécialistes de la retraite. Et aujourd'hui, les syndicalistes qui ont travaillé dans le cadre de la négociation, ensuite la rupture des négociations sur la dernière réforme de retraite, moi je connais des gens à CFDT ou à la CGT, ou dans toutes les 5, même les 6, si vous voulez, des gens éminemment compétents, techniquement je veux dire.
Mais
madame, je dis ça en toute objectivité, je ne suis ni syndicaliste, ni patronne.
Je demandais, effectivement, ayant moi-même traité tous les cas de retraite pendant des années, je dis simplement que ça dépend déjà de l'emploi,
tout à fait.
Un régime commun au départ,
tout à fait.
Si c'est une discrimination,
tout à fait. Exactement. Si c'est une inégalité de traitement, parce que dans ce qui nous a été donné, on n'est pas dans le périmètre de la discrimination. Donc madame a bien compris qu'elle prendra contact avec, comme ça on est...
Oui, mais est-ce que cette dame doit prendre contact avec un défenseur?
Elle commence d'abord par voir vers la proximité un syndicat qui va éplucher son dossier pour lui donner un avis technique. Donc moi je suis totalement incompétent pour d'abord une raison, je ne suis pas très spécialiste des retraites, et deuxièmement je n'ai pas le dossier sous la main. Donc il faut qu'elle voit d'abord une personne compétente syndicaliste. Et ensuite s'il y a problème, le le défenseur des droits. Mais pas au motif de la discrimination avec ce que vous nous avez donné.
Non, c'est ce que je vous ai dit.
Ah oui, on est entièrement d'accord. Mais ça nous a permis de faire un raisonnement collectif. On avance.
Est-ce que vous ne pensez pas prévenir les discriminations
enfin, non, vous aviez... comme madame s'est déjà exprimée, je vous accorde la parole à vous et ensuite on revient vers madame.
Nous représentons une association des domiciles, nous avons de nombreux employés, nous avons signé la charte de la diversité.
Oui, avec CAC Sanoussi.
Pardon ?
Avec CAC Sanoussi qui était venu vous voir, je crois, le secrétaire général de la charte, non ? Oui, enfin, vous avez, je me souviens, je m'en avais parlé.
On essaie d'appliquer au mieux de tous les publics qui viennent chez nous. Femmes, sexe, couleur, et on est souvent confronté encore aujourd'hui par un refus de nos clients.
Oui, 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 c'est un cas classique.
Complètement discriminatoire. Je ne veux pas d'une noire. Oui. Je ne veux pas d'un voile. Je ne veux pas d'un garçon. Oui. Alors que la qualité de travail est exactement la même, voire mieux quelquefois. Qu'est-ce qu'on peut faire ?
Alors,
à part discuter de bout de bras, à part faire des menaces, souvent des personnes qui sont aidées par le conseil général et,
oui.
et qui payent.
Oui.
Voilà.
Tout à fait.
Qu'est-ce qu'on peut faire ?
Alors, ce cas se présente et se pose aujourd'hui pour toutes les associations d'aide à domicile. Et la DMR, je crois, le connaît bien, et toutes les autres associations, y compris celles qui sont carrément marchandes et dans le. Alors, d'abord, il faut qu'à l'intérieur de votre structure, vous avez signé la charte, vous posiez ce problème ensemble pour essayer de définir en groupe de travail des argumentaires. C'est-à-dire comment argumenter avec un client, entre guillemets des clients, les bénéficiaires.
Usagers.
Usagers, bénéficiaires.
Comment service.
Après, dans les usagers et les bénéficiaires, vous avez ceux qui payent, ceux qui ont la gratuité totale de la prestation servie. Payé par le conseil général en totalité. Ça existe, n'est-ce pas ? Cas numéro 1. Oh là, bon. Oui, non, mais je. Cas numéro 2. Cas numéro 2, ceux qui ont une complément dans certaines mutuelles, qui apportent un complément. Et cas numéro 3, ceux qui payent en une petite partie de leur poche en fonds propres. Nous sommes d'accord ? Mais c'est rarement des 100% fonds propres de leur poche. Est-ce qu'on est d'accord ?
Ah oui et non, parce qu'on a aussi des publics qui ne sont pas aidés.
Ah oui, donc, j'ai pas, donc je ne connais pas bien votre association. Alors après, dans certaines associations, on est dans le privé, dans le marché pur, qui est 100% prestation de services pour des cadres, pour des gens qui ont les moyens de se payer ces prestations.
Et ce sont bien des clients, pas forcément des usagers.
Voilà. Non. Mais c'est pour ça que
j'ai des clients. Non, parce que moi, j'en peux plus. J'en peux plus la question pour l'ensemble des services.
Oui. Je crois que j'ai balayé, j'ai essayé, je voulais pas qu'on ouvre le débat, je voulais au contraire qu'on l'évite. Je voulais balayer tous les cas de figure possibles, parce que j'ai travaillé à Lyon sur cette question, on a écrit un topo là-dessus. On a travaillé avec une association à Lyon là-dessus, avec la ville de Villeurbanne qui a été en pointe sur cette question. Donc quand on a balayé tous ces cas de figure, le plus difficile semble être celui des clients qui payent leur poche. On n'a aucun moyen. Par contre, ce qu'il faut, c'est créer d'abord tous ceux qui reçoivent l'aide à domicile et qui payent à 100%. Il faut aussi faire signer dans les documents d'information qu'on leur donne, déjà doit apparaître la discrimination comme quelque chose d'illégal et que qu'il y a un risque là qu'on rentre dans une. Bon, je ne peux pas détailler tout ça, mais le premier acte, c'est que les gens, dès le début, quand ils viennent s'inscrire, on les informe sur le fait qu'on leur donnera des gens compétents qu'on garantit et on a des assurances.
On peut mettre ça dans le contrat ?
Ah ben déjà, dans l'information, on dit qu'on.
L'information qui est dans les lois d'accueil, la chambre de la diversité, ça, l'information est liée.
Ah ben un contrat, on peut ajouter dans un contrat, on peut mettre une clause dans un contrat que. Il s'engage aussi à recevoir les personnes sans distinction compétente, sans distinction de ceci, de ceci, pour respecter le principe de non-discrimination, etc. On peut mettre ça dans un contrat. C'est pas illégal. Mettre quelque chose dans un contrat, vous savez, c'est synagmatique, c'est un accord de volonté.
Un peu bordé, dans
oui. Et puis, ces personnes, quand on les a informées et qu'elles refusent, ça se passe avec un conseiller de clientèle, un conseiller de clientèle ou d'usager. Hein. Donc, avec ce conseiller, il doit être, il ou elle, très à l'aise pour parler de ces questions et expliquer à la personne que si elle persiste, on sera obligé d'engager des poursuites judiciaires. Oui, Parce qu'on a...
On l'a fait souvent. Hein.
Et...
On a beaucoup menacé.
Oui, mais il faut à ce moment-là, il faut à ce moment-là refuser.
Ah, faire le pas,
il faut envoyer la personne si elle la refuse, ou lui refuse la prestation.
Oui, non, mais...
C'est-à-dire que la gradation qui a été faite à Lyon.
J'ai refusé une question.
Oui.
Après, je sens, hein.
La...
C'est pas mon éthique. Et...
Mais c'est pas une question d'éthique, c'est une question de droit.
Oui,
parce que à ce moment-là, la personne qui a été refusée peut porter plainte contre cette personne ou contre vous. Or, vous, pour vous prémunir, bien entendu. Si elle... Le problème, c'est que les usagers, je ne sais pas où en sont aujourd'hui les gens qui vont faire le service chez vous, où est-ce qu'ils en sont, mais à Villeurbanne, il y avait une association pour aider les gens à porter plainte contre les entreprises et les associations intermédiaires. Donc ils s'étaient mobilisés dans un collectif. Donc les associations, vos homologues, vos collègues, sont retrouvés, eux, à subir le risque de se faire attaquer par les usagers qu'ils ne déléguaient pas ou qui se voyaient essuyer un refus au motif d'une complicité. Donc là, il faut être extrêmement ferme. Et puis, évidemment, il faut un travail de toutes les structures du territoire qui décident d'informer solidairement par des documents collectifs l'ensemble des personnes. Et après, il faut rentrer dans une logique aussi où on prend beaucoup de temps pour que ce soit fait en très bonne harmonie avec le Conseil Général, avec, et qu'on le déconnecte complètement du entre guillemets, clientélisme, où on perdra des électeurs ou des choses comme ça. Je suis désolé de parler normalement. Non, mais c'est des choses que j'ai entendues. J'ai entendu ça dans des territoires. Hein, je veux dire, on ne va pas non plus... vous savez, si je parlais pas, la seule liberté que j'ai, c'est de parler librement dans un pays libre. Mais simplement, il faut être très clair. Ça prendra beaucoup de temps, mais il faut des relais médiatiques, des relais d'opinion, des relais de communication. Pardon, madame, parce que ce qu'il a soulevé est lourd. Ça demande un temps... Évidemment, je ne prétends pas répondre, là. Simplement, vous avez des expériences, notamment sur vos collègues à Lyon, qui ont fait un gros travail là-dessus. Il y a d'autres collègues à vous qui ont essayé à Nice de faire des choses intéressantes, et ils ont vraiment souffert. Hein. Ils ont vraiment souffert, parce qu'ils ont eu des problèmes qui n'étaient pas... À la limite, quand ils arrivaient à convaincre les gens, ils avaient des problèmes par ailleurs. Bon, je ne m'étale pas, vous avez parfaitement compris ce que je veux dire. Mais ça ne peut pas se faire sans créer sur le territoire une solidarité entre toutes vos structures qui informent de la même manière. Et non pas se piquer des marchés. Parce qu'après, qu'est-ce qui se passe? Ils disent, vous nous faites embêter, enfin ils disent même parfois des mots plus grossiers que ça, mais on va aller chez l'autre, il ne nous pose pas ces questions, il ne nous envoie ni arabe ni noir. Hein. Il nous envoie que des gens bien blancs, etc., etc. Madame.
Oui, sur la question de. Moi, j'ai un peu de problème sur la question des associations, justement, parce que la plateforme parlait beaucoup de partenariat, je suis totalement d'accord, et faire ensemble. Mais moi, ce qui me pose beaucoup de questions, c'est de bien définir les règles juridiques dans lesquelles on se trouve dans le cadre associatif. C'est-à-dire, je parle de la responsabilité et des fonctions. Les associations sont dans un cadre associatif avec un conseil d'administration qui a des responsabilités précises. Et ensuite, des salariés, quels qu'ils soient. Or, aujourd'hui, la difficulté à laquelle on se heurte, c'est que la question de ce que j'appelle la gouvernance n'est pas effectivement appliquée. Il y a difficulté, effectivement, que les conseils d'administration prennent vraiment leurs responsabilités sur le principe d'un projet associatif, et donc, véritablement, juridiquement, à partir de ce moment-là, prennent une vraie responsabilité entre eux, ceux qui, effectivement, sont désignés élus pour les années, et ceux qui sont salariés. Et ça, là-dessus, c'est grave pour notre secteur. Moi, je suis... dans le cadre des personnes âgées, celui qu'on a, et c'est fondamental aujourd'hui, puisqu'on ne sait pas effectivement qui décide pas, qui fait quoi, et à partir de ce moment-là, les difficultés arrivent, et il y a compris des prises de responsabilité abusives de certains.
Alors c'est un vieux, serpent de mer dans le monde associatif. Il y a un moment... ou dans une association, il faut impérativement que soit écrit le partage des fonctions.
Absolument.
Dans des documents écrits et non pas de manière coutumière. La coutume, ça marche très bien en Afrique, ça marche pas bien à Nancy. Il faut que ce soit clairement défini les périmètres de responsabilité de chacun. Et il faut impérativement que les pratiques symboliquement féodale de certains élus d'associations cesse, parce que le premier devoir d'une association, c'est de respecter le code du travail. Par contre, lorsqu'on n'a pas les moyens de le respecter, on explique clairement aux gens au départ ce qui relève de la fonction bénévole et ce qui relève de la fonction salariée. Et s'ils l'acceptent, eh bien, moi j'ai œuvré dans des milieux associatifs, je m'étais employé pendant une année dans un mouvement, je connais bien, je respecte beaucoup, simplement lorsque j'avais le dimanche, je venais pour des choses, je savais bien ce que je faisais, j'étais dans un cadre, sans jeu de mots, parce que j'étais aussi cadre, de venir le dimanche pour faire des choses, alors que c'est le jour du Seigneur, normalement on ne travaille pas.
Même si c'est pas
humour, mais madame, c'est de l'humour. Goûtez un peu à mon humour, voyons. Alors, donc, c'est simplement, là, on partageait clairement. Or, on a vu des dérives du genre, on vous fait travailler bénévolement, puis le jour où il y a un problème qui peut se finir au prud'homme, vous voyez, c'est pas normal. Il faut que la gouvernance soit partagée avec des documents écrits. Une fois que c'est partagé, ça ne veut pas dire que les problèmes seront résolus. Ça veut dire que les problèmes ne se poseront pas dans les mêmes termes. Ils se poseront différemment. Ils se poseront sur la fonction employeur-employé et ça sera beaucoup plus clair. Et je crois que là-dessus, il y a une petite pédagogie que l'association doit faire dans la première année de sa création. Et si elle est ancienne, est grande, ben elle peut se permettre de le faire dans un autre cadre. Mais une association qui naît doit avoir, par exemple, un document, y compris du Conseil général, quand il a subventionné, etc., qui lui demande ce genre de questions. Dans le futur, c'est ce que vous ferez dans le cadre de la RSE, la responsabilité sociétale des organisations. La fameuse RSE qui fait aujourd'hui l'objet d'une norme ISO 26000, etc. La responsabilité sociétale, c'est ça aussi. Madame, vous aviez une question et j'ai laissé passer parce que...
Oh, non, c'était une chose assez générale en disant, est-ce que pour prévenir les discriminations, il ne faut pas surtout travailler dans le changement des représentations sociales qu'on a vis-à-vis des personnes handicapées, des personnes âgées, etc.
C'est une très belle question parce que justement j'ai évité de parler de ce point-là. Je suis content que quelqu'un pouvait le faire dans le débat parce que je n'ai pas voulu faire une formation. Mais... lorsque on travaille sur ces questions, il faut travailler sur plusieurs fronts. Le premier, c'est le cadre juridique précis. De chaque situation, on a parlé de l'hôpital, on a parlé de chaque situation, la retraite, quel est le cadre dans lequel nous sommes. Ensuite, on distingue, est-ce qu'il y a discrimination, est-ce qu'il y a, etc. Numéro 2, on travaille sur les pratiques et les procédures. C'est des outils, comme le truc qu'on vient de dire. 3, on crée le sens. Moi, j'y crois beaucoup. Moi, j'ai été nourri à la philosophie des Lumières. Je pense qu'il faut que... les gens aspirent au sens, n'importe où. Même dans des... vous savez, le bar, le pénalty. J'ai toujours cette formule, le bar, le pénalty. C'est l'endroit où, généralement, on refait... et parfois, avec des discours, poujadistes, tout ce que vous voulez. Les gens aiment construire du sens. Et puis après, on travaille les représentations comment ? Ça ne se décrète pas, les représentations. Comment ? D'abord, l'exemplarité dans les pratiques et dans les propos de celui qui est en haut. C'est comme ça qu'on commence à bouleverser les représentations. C'est celui qui est en haut est exemplaire dans ses propos et dans ses pratiques. Et puis, il faut des temps de réflexion et de formation sur les stéréotypes. Ça, les formations aujourd'hui sont excellentes sur comment se déclenche un stéréotype. Par exemple, si je vous dis... le charpentier est tombé de l'échafaudage. Il s'est fait mal. Heureusement, il lui est rien arrivé de grave. Ça va ?
Non.
Qu'est-ce qu'il y a vu une femme dans sa image mentale ? Charpentier, vous avez vu un homme ou une femme dans votre image mentale ? Un homme ?
Non, mannequin.
Merci, madame. Donc, sur la majorité des gens ont vu un homme. Ben voilà. La secrétaire, le secrétariat s'est occupé de faire le café. Qu'est-ce qu'il y a vu un homme ?
Oh.
Voilà. Donc en fait, les représentations.
Moi j'ai vu.
Heureusement qu'on a un écart type par rapport à la moyenne. Donc simplement, l'immense majorité des gens, c'est-à-dire nous tous, font une association d'idées sans s'en rendre compte. Les stéréotypes, il faut les travailler et dire aux gens, ne culpabilisez pas. Les stéréotypes, c'est ce qui nous constitue. Si on n'a pas de stéréotypes, on ne peut pas vivre en société. En revanche, une fois qu'on les a déculpabilisés, il faut les responsabiliser. Il faut déculpabiliser sur les stéréotypes pour pouvoir responsabiliser sur les actes. Vous voyez ? Et quand on fait ça, encore une fois, on le fait dans une logique de pédagogie et non pas dans une logique de chercher le méchant. Vraiment, les stéréotypes, c'est flagrant, les stéréotypes. C'est des choses qui arrivent très souvent. On attend quelqu'un, et puis une fois, on dit « Ah, vous êtes le chauffeur du ministre ?» Je dis « Non, je suis le conférencier. » Parce que j'ai fait une conférence avec Azouz Degag à l'époque, et puis je suis arrivé un tout petit peu avant lui, et puis voilà, il me dit, ah, vous êtes le chauffeur. Non, je suis conférencier, mais en fait, j'aurais bien voulu, il est tellement marrant, Azouz Degag. Mais voilà, donc si vous voulez, ce qui est important, c'est que lorsqu'on est sur les stéréotypes, on donne aux gens des temps pour réfléchir là-dessus. Et si on forme aux stéréotypes et aux préjugés, qu'est-ce qu'on fait? On fait diminuer le terreau qui produit les discriminations. Mais on ne diminue pas les discriminations. Il faut assécher le marigot. Le terreau, il faut faut l'assécher.
Mais qu'est-ce que vous entendez exactement? Par exemple, est-ce que de dire un schizophrène est un homme dangereux, il faut l'enfermer?
C'est un stéréotype.
C'est un stéréotype.
Bien sûr que c'est un stéréotype, parce que moi, je ne suis pas médecin pour savoir quel type de passage à l'acte est probable ou possible.
Non, c'est un stéréotype. C'est un stéréotype.
Ah, oui, c'est un stéréotype. Oui, d'accord. C'est un stéréotype. C'est-à-dire, le stéréotype, c'est l'association d'idées qui se fait mécaniquement, automatiquement, entre une personne et une situation. On fait la malheur. Et après, ça devient un préjugé. Et on dit, mais voyez, tous les Arabes, ils arrivent en retard. D'accord. Après, on est sur les Arabes, ils arrivent en retard. Après, on dit, mais c'est génétique. Et c'est dans l'huile d'olive qu'ils ont ça, dès l'enfance. Hein. Et puis après, on rentre dans des systèmes de construction sociale, de catégories. Et on construit des catégories. Vous savez, les femmes, c'est une construction sociale. L'infériorité des femmes a été construite, de toutes pièces. Mais sur le long cours, c'est la plus difficile, sur des millénaires. Et là, la plus éclairante, c'est Madame Françoise Héritier, une grande dame, qu'il faut lire et relire, et écouter surtout, et d'une humilité. Et c'est la construction de la domination masculine et de l'inégalité supposée des femmes, c'est une construction du long cours, sur des millénaires. Et après, quand on l'a, ben, c'est fini. Donc, ne pas avoir conscience de ces stéréotypes, je vous assure que c'est un grand bonheur. Parce qu'on sait qu'on les a, et on sait qu'ils se déclenchent. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Tac! On les stoppe dans le passage à l'acte. Ok? L'autre jour, au métro, des jeunes gens ont tiré intempestivement le truc. Moi, j'ai vu des jeunes. Non, des personnes. Ils n'ont pas dit de jeunes, ils ont dit des personnes. Moi, j'ai vu des jeunes dans ma tête. Mais plutôt comme moi. Eh bien, non! C'était un monsieur qui s'était trompé, tout à fait bêché, quoi. Et donc, c'est important de prendre les équipes et de leur dire, et de les former. Alors, il y a des petites formations d'une demi-journée ou une journée sur comment fonctionnent les stéréotypes. Et après, quand les gens se les approprient, ce n'est pas pour faire mumuse, c'est pour dire aussi les propos en situation professionnelle. Et là, on a des dérives en France qui sont inadmissibles. Autrefois, quand j'étais plus jeune, je trouvais que les Américains étaient complètement cinglés. Je dis, ouais, c'est la police du langage, ils font de la censure. Aujourd'hui, je leur donne 1000 fois raison quand c'est raisonnable. Pas prendre un ascenseur avec une femme, bref, ça c'est des stupidités. C'est la prévention contre leur système judiciaire qui est excessif, accusatoire. Mais sinon, sur les propos, on est en situation professionnelle. On a une collègue femme, on commence à parler de je ne sais quoi, on l'invalide professionnellement. Une fois, France Inter, il y avait une femme physicienne qui parlait merveilleusement bien dans une émission scientifique, et il a ajouté, le journaliste, qu'elle était jolie et qu'elle avait de beaux yeux bleus, je ne sais pas quoi. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le sujet? Vous voyez, il n'aurait jamais fait pour un homme. Jamais. Donc en fait, on invalide la palabre. Par contre, qu'une fois ce travail terminé, on aille sur la terrasse à Marseille, à la Canebière, et on s'adonne avec ses copains à un délire verbal, c'est tout à fait légitime. Le même individu, on peut lui apprendre à séquencer. Par contre, plus on police son langage et on croit à l'égalité, plus on en devient convaincu, et moins on a envie de cet humour-là, par exemple. Vous voyez le raisonnement? C'est que vous avez de l'humour sexiste, de l'humour homophobe, mais à ciel ouvert. Hein. L'humour sur les personnes, la seule chose que les gens n'osent pas trop, c'est sur le handicap. Parce qu'ils se sentent un peu dégueulasses en le faisant. Pardon de ce terme qui a acquis des palmes ministérielles.
Est-ce qu'ils disent que ça peut être
tombé? Il a été utilisé par un ministre en fonction, une dame, donc je l'utilise en la citant. Ouais, donc c'est pas normal de faire des... Et vous avez le terreau sur... Il faut travailler sur tout. La discrimination, c'est un système. Il faut lui répondre par un système. Mais le début, c'est d'abord le périmètre juridique. C'est là où on a le truc où on est solide. Et les professionnels. Ce que vous venez de faire ça, monsieur, en ne donnant pas à cette personne sa chambre d'hôtel alors qu'elle avait droit à sa chambre d'hôtel, c'est une faute professionnelle. Voilà l'avertissement écrit. La prochaine fois, ce sera un deuxième avertissement. La troisième, ce sera un licenciement. Ça change la donne. Alors qu'il dit, oui, mais il y avait deux Suédoises qui allaient arriver, donc je me suis dit, peut-être qu'elles seront plus jolies que ceux... Voilà, ça c'est humain. Dire des sottises et faire des bêtises, c'est humain. Pratiquer l'égalité, c'est culturel. C'est clair ou pas ? Pratiquer l'égalité, considérer que l'autre est son égal, et s'efforcer de mettre ses actes en accord avec ses paroles, c'est pas humain du tout. C'est presque inhumain. En tout cas, c'est culturel. Ça se construit, ça s'apprend. Mais une fois qu'on l'a intégré, c'est un vrai bonheur. Et hélas, c'est réversible. J'ai vu de jeunes gens magnifiques, démocrates et merveilleux, partir en Afrique et 10 ans après devenir des féodaux, des colonialistes, des... parce qu'ils étaient bien en partant. Puis ils étaient dans un autre système. Et ils se sont habitués à d'autres... Et ils ont régressé. C'est jamais gagné, hein, mais c'est avec soi-même, là. Merci de m'avoir entraîné sur un terrain qui est passionnant, celui des stéréotypes. Est-ce qu'on a un peu fait le tour ? Donc, pour vous, ce qui compte, c'est dans vos pratiques, avec vos équipes, avec vos collègues, d'abord en interne, vous prenez le périmètre, nos décisions. En interne, en externe, est-ce qu'on a le référentiel sur lequel on prend les décisions ? Sur quels critères on prend nos décisions ? Après les difficultés, vous créez votre groupe de travail, monsieur, et vous voyez, et vous essayez de faire un « lobbying » entre guillemets sur toute la profession. Après, on travaille en externe avec eux. Et on voit que quelqu'un a fait quelque chose de sympathique, une charte, un document d'information, une pub dans une radio. Bon, on s'en inspire. On voit si c'est applicable. Et c'est le territoire qui se qualifie. Sinon, si quelqu'un travaille tout seul dans son coin, ça ne marchera pas. Il faut que le territoire se qualifie. Et vous avez la chance d'avoir un conseil général qui fait la locomotive. Ben, qui tire vers le haut parce qu'il faut bien qu'il y ait une locomotive quelque part. En tout cas, c'est ce que je ressens, vu de l'extérieur et de loin. Mais j'ai toujours vu, mais d'abord, vous avez fait des formations internes, j'ai eu le plaisir de passer du temps avec tous les cadres, enfin, il y a eu quand même un gros boulot de fait, avec toute la... Le conseil général, en tout cas, s'est formé. Hein. Mais j'ai horreur de faire la pub.
Vous pouvez me redonner le nom de la personne dont vous disiez qu'il fallait le dire ?
Ah oui, Françoise. Françoise, le prénom, héritier comme un héritier.
Il y a un titre
Il y en a plein, et là j'ai un trou de mémoire. J'ai un trou de mémoire. Il y a plein de choses qu'elle a écrites. Oui.
Dans le siège de ce que vous dites, c'est égard à certains critères spécifiques, comme l'origine, comme l'homosexualité, comme la religion, etc., on est très souvent sur la peur de l'autre, la peur de celui qu'on ne connaît pas.
Bien sûr.
Et là aussi, il y a un travail de... en profondeur dans la communication, dans l'apprivoisement, dans la connaissance de... On rencontre ça aussi tous les jours. Il y a des gens qui sont de bonne foi, quelque part, et quand même, ils ont discriminé, mais ils ne savaient pas ou ils avaient peur.
Bien sûr.
Et là, c'est un travail qu'il faut commencer dès la maternelle. Dès le premier âge, il faut habituer maintenant.
Vous savez, la question que vous posez, je l'avais posée à des collègues américains. Je leur ai dit, quand même, je n'arrive pas à comprendre comment vous avez fait pour l'histoire des Noirs américains. Songez que dans les années 60, les Noirs américains n'avaient pas le droit de s'asseoir avec les Blancs dans certains États, dans les autobus, histoire de Rosa Parks, etc. Et en fait, quand on voit aujourd'hui la situation des Noirs, je ne dis pas que le racisme a disparu, pas du tout. Je ne dis pas que la discrimination aux États-Unis a disparu, ce n'est pas vrai. Mais par contre, plus personne, y compris, c'était une anecdote qui était sortie, il semblerait que ce soit vrai, mais il semblerait que le Ku Klux Klan avait fait une déclaration en disant que Colin Powell était un grand patriote. Je ne sais pas si vous mesurez le côté humoristique quasiment. C'est-à-dire que le grand Colin Powell, qui était quand même un grand chef de guerre, etc., général, je ne sais pas combien d'étoiles et compagnie, et bien qui était secrétaire d'État de Bush pour l'invasion d'Irak et compagnie, c'est un grand patriote. En fait, les Américains, leur mentalité, leur représentation des Noirs a aujourd'hui complètement changé. Pour eux, le Noir est un être humain à part entière, capable d'être intelligent, et capable d'être mon égal et voire mon ami. Donc du coup, les Blancs ont changé de regard sur les Noirs. Mais ça, c'est plus de 50 ans de travail avec les manuels scolaires. Vous avez raison. Une très célèbre expérience faite en 1970 ou 72 par une enseignante, les yeux bleus, les yeux marrons. C'est les manuels scolaires, la pédagogie, les films, les téléfilms, les médias, etc. etc. Et petit à petit, à force de côtoyer celui qu'on ne connaît pas, on finit par l'humaniser. C'est en côtoyant, en côtoyant, quotidien des gens différents qu'on arrive à. Par contre, il restera toujours le fameux petit stéréotype. D'accord ? Et donc, c'est un énorme boulot. Et ça, ça dépasse le Conseil général, avec le respect que j'ai pour le Conseil général. Il y a vraiment une politique importante que doit mener la nation. Et ça, c'est pas fait, malheureusement.
Pourtant, c'est quand même très enrichissant de discuter avec une personne.
Ah oui ?
Tout bon, je dirais.
Ben oui, j'adore discuter avec les comment ils s'appellent ceux, les gothiques. Ils sont passionnants.
C'est quelque chose qu'on ne connaît pas.
Ben merci beaucoup pour votre écoute. Je crois qu'on a du temps. Et j'espère que ça vous a apporté quelque chose pour vos structures avec vos collègues. J'espère que ça vous a apporté quelque chose pour les collègues.
Voilà. Ok. Je vais ranger mes affaires. Merci de votre écoute et de la participation à ce débat. Et moi, un grand merci à Pierre-Denis. Je crois qu'on a eu un exposé vivant, pédagogique,
pour venir prendre le boulot.